Découvrez MyMatch en exclusivité sur Winamax. Créez votre pari sur mesure en choisissant plusieurs sélections sur un même match de football et obtenez votre cote personnalisée. Buteur, score exact, nombre de buts marqués. Avec MyMatch, donnez une cote à votre intuition.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Georges Quirino.
Bonsoir à tous, la Ligue 1 se poursuit, la 10e journée après la victoire parisienne il y a quelques instants, 1-0 face à Lens. Vous l'avez vécu avec Simon Dutin et Greg Pesley qui nous ont passé à la main. On va accueillir coach Courbis qui est avec moi en studio et qui va nous accompagner pendant ces deux heures. Salut coach.
Salut les amis, salut à tous.
Et on va tout de suite prendre la direction de Brest où c'est parti il y a quelques instants entre Brest et l'OGC Nice. Xavier Grimaud.
Salut Georges, salut Roland, salut à tous, salut, bienvenue salut. À Le Blé avec un corner niçois, le premier de la partie pour vous accueillir. 0-0 entre Brest et Nice, la première occasion, situation en tout cas était pour Brest avec une volée du gauche de Madi Camara qui passe à côté des buts de Boulka, le corner sur la gauche en regardant les buts de Bizot, c'est la tête de Dante, ce sera au duel avec Mama Baldé et on siffle une faute a priori du capitaine niçois Dante qui est de retour. 3 minutes 0-0, match assez intéressant à suivre, notamment parce que ce sont deux équipes qui peuvent faire un sacré rapproché au classement provisoirement avant les matchs de demain, puisqu'en cas de victoire, s'il y a vainqueur, les deux équipes avaient 13 points au coup d'envoi, respectivement 8e et 10e, mais ils pourraient tout simplement remonter à la 5e place, à 2 points de Lille, par exemple, dans ce championnat qui avance pas si vite que ça, Roland, en haut. Il y a un gros coup à aller chercher, et pour avoir discuté avec l'encadrement des deux clubs en avant-match, ils étaient d'accord sur le fait que c'était un match potentiellement pas déterminant mais très important pour les ambitions et la suite du championnat, parce qu'il permet clairement de basculer du bon côté. 0-0, je vous fais les compos dans un instant, mais Roland, c'est un match intéressant à suivre entre ces deux équipes.
Oui, complètement. Donc cette équipe de Brest évidemment prépare en même temps le prochain match de Champions League. On sait très bien qu'en cas de victoire dans le prochain match, il ferait presque l'exploit de se qualifier, ce qui est tout simplement extraordinaire. Donc on va pouvoir les regarder déjà dès ce soir.
Tiens Xavier, tu nous parlais du retour de Dante hein, il y a quelques instants. On est sur Brest-Nice 0-0 pour l'instant. Deux équipes qui jouent l'Europe cette semaine dans les compositions.
On donc arrive à cette passe de Del Castillo. Elle était difficile à reprendre pour Mama Baldé. C'est pas fini avec Madi Camara, le centre en retrait. C'est là, il les laisse passer pour Rosario, c'est trop dangereux. La frappe de Lasmelou, sorti par Boulka, dégagé. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, Rosario, de la laisser passer. C'est très étonnant. Il y avait Pierre Lasmelou entré de surface dans une position qu'il affectionne et ça manquait un petit peu de puissance, la frappe du droit de Lasmelou, mais là première intervention décisive de la part de Boulka. Toujours 0-0, la cinquième. Je t'ai coupé Georges.
Les compos, on voulait savoir peut-être les points forts. Effectivement il y a deux équipes qui jouent l'Europe cette semaine. Est-ce qu'on a fait tourner? On a des retours aussi à Nice.
Oui, exactement, les retours importants évidemment de Dante, ce capitaine, retour de Klos, retour de Youssouf Ndachimi également qui joue au milieu ce soir. Ce sont trois titulaires évidemment déterminant pour l'OGC Nice. Il y a le retour de Ndombele qui est lui sur le banc. Donc on a plutôt la grosse équipe du côté de l'OGC Nice, et on a plutôt la grosse équipe du côté de Brest, à part Brendan Chardonnay qui est sur le banc. C'est Julien Le Cardinal qui est titulaire et Jordan Amavi titulaire face à son club formateur, et c'est Aïdara qui est sur le banc. Deux joueurs qui devraient être titulaires en Ligue des Champions sur la pelouse du Sparta mercredi. Donc on fait une petite revue d'effectifs de la part d'Éric Roy assez intelligemment pour impliquer tout le monde. Mais voilà, sinon le trio de devant hein, c'est Del Castillo, Ajorc et Mama Baldé, sachant que Abdallah Sima est ménagé, légèrement touché. Les Brestois, c'est pas mal ce qu'ils font là. Encore on est côté droit, on va passer côté gauche avec Del Castillo qui va tenter la talonnade pour redonner à Mavi. C'est contré par Jonathan Klos et il y aura une faute. Il a donné un petit peu son corps pour couper l'action, c'est bien vu de la part du Niçois. Je pense que c'est Evan Guessant, non c'est Mohamed Alichaud qui a été légèrement touché. Faute sifflée par Monsieur Turpin, mais les Brestois qui mettent Pas mal d'intensité dans ce début de match du côté de. Bah, je vous donne les équipes complètes. Ça fait Bizot, Lala, le Cardinal, Koulibaly, Amavi pour la défense brestoise. Lesmelou, Magnetti, Camara, c'est du grand classique pour le milieu. Et donc Del Castillo, Ajorque, Baldé pour l'attaque. Et du côté de Nice, on a Boulka dans les buts. La défense à 3, Dante, Bambito, Abdelmonem, Jonathan Clauss, piston droit, Ali Abdi, piston gauche, Youssouf, Rosario au milieu. Et les trois offensifs, Jérémy Boga, Evan Guessant et Mohamed Ali Chaud. Mohamed Ali Chaud dans la surface, justement. Le centre deuxième poteau! Un petit peu mal donné. Ouh, c'est dommage. Ouh, c'était une occasion en or un petit peu là pour les Niçois. Il a centré un petit peu trop fort et un petit peu trop profond. Mohamed Ali Chaud pour Jonathan Clauss qui s'était bien projeté sur son côté droit. La 7ème, mais il y a du rythme déjà dans cette rencontre entre Brest et Nice.
Bizarre quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Il y croit pas, il fait quoi?
Ouais, il peut jeter le pied, hein. Il peut jeter le pied comme l'a fait Baldé tout à l'heure.
Effectivement.
Ouais.
Mais en tout cas, ça fait toujours 0-0 entre les Brestois et les Niçois. Après 7 minutes 32, je retrouve voir dans quelques instants Xavier, mais on va faire un détour quand même par Bercy où nous attend Eric Salio parce qu'on a un Français en demi-finale. Je vous le rappelle, vous le suivez depuis un petit moment. Kachanov, Humbert, on est dans le troisième set décisif. Eric, oh, je vois Kachanov, il a des petits problèmes physiques.
Oui, non. Il a un petit problème physique, Karen Kachanov. Le kiné va venir. On l'a vu procéder
qu'est-ce
à des assouplissements. Il y a eu une petite pointe, je ne sais pas où, mais il y a un truc qui ne va pas chez Kachanov. Bon, il mène 3-2, mais là il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Il faut dire que la bagarre est tellement physique. 2h28. On va suivre ça de très très près. Un set partout, donc vous en doutez. Et donc 3-2, Kachanov dans la troisième manche. C'est Hugo Humbert qui va servir, mais Hugo a vu les difficultés physiques de Kachanov. Et voici le kiné qui arrive sur le central.
Raconte-nous,
ouais,
qu'est-ce qui se passe là? Il va devoir s'occuper de lui, là. Ça va durer un petit peu.
Ouais,
du coup,
alors, ils vont examiner. Il va lui dire voilà, j'ai ressenti
peut-être
ça.
Le tournant du match.
Après, il y aura. Oh là, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un truc, ouais, une pointe terrible. Je pense que c'est au niveau des adducteurs, peut-être.
Ouais, on l'a vu quand même revenir difficilement sur son siège, hein, il y a quelques instants, Kachanov.
Oui, non, il a un truc. Il a un truc. Ça, c'est tout bon pour Hugo et pour le public.
Écoute, on va suivre ça de près, Eric.
Et peut-être pour notre copain.
Ouais. D'ailleurs, t'as pas enlevé la blague de coach, hein, Eric. Qu'est-ce qui nous catch à neuf? C'est quand même bizarre que toi, tu rentres pas sur celle-là.
Je vais pas la répéter trop.
Normalement, faut pas la répéter, mais si quelqu'un l'a pas entendu, il fallait quand même la dire.
Très, très bonne.
Catch à neuf, effectivement, pour l'instant, on est dans le troisième set qui est avec les mains du kiné. Je vous rappelle également.
C'est l'intérieur de la cuisse, je crois que c'est
l'intérieur de la cuisse.
D'après ce que je vois, j'ai pas les jumelles de Jeannot, c'est dommage, mais je pense que c'est l'intérieur de la cuisse.
On va lui demander dans le bâtiment, je pense que s'il part tout de suite, il peut arriver à Bercy avant la fin du set de donner ses jumelles. On se retrouve dans quelques instants. Eric, tu nous tiens au courant sur l'état de santé de Kachanov.
Je pronostique le quadriceps.
Hugo Humbert. Ah oui, là, on a docteur Courbis avec nous, là, donc forcément.
C'est la fin de saison, hein, les organismes sont usés, fatigués.
Et quand t'as quadriceps,
je pense que dans un premier temps, il pense que ça va aller mieux, mais c'est surtout 2-3 minutes après qu'on va voir si vraiment ça va mieux.
Oh là là, mais c'est pour ça qu'on t'a fait venir aujourd'hui, coach. On savait que le match allait durer longtemps.
Je pensais pas que c'était pour mon connaissance footballistique.
On savait qu'il allait avoir un moment médical où tu allais faire la différence. Comme d'hab.
Dembélé aussi, j'ai été inquiet.
Oui, hein. Oui, bon, en plus tu le connais bien, Ousmane Dembélé. Je vous rappelle, il est 19h10, vous êtes sur RMC, on aurait dû normalement vivre le début des qualifications du Grand Prix d'Interlagos avec Jean-Luc Roy, c'est de la Formule 1. Tout à l'heure, on a eu la victoire de Lando Norris sur le sprint, mais c'est un déluge en ce moment sur le circuit brésilien, et donc la qualification est retardée. Peut-être qu'on aura un départ aux alentours de 19h30, Jean-Luc Roy nous donnera des nouvelles dans quelques instants. On retourne du côté de Brest, Francis Leblay. Brest face à l'OGC Nice, c'est parti depuis 10 minutes, Xavier Grimaud.
Ouais, la 11e, très exactement, toujours 0-0 entre Brest et Nice, et déjà pas mal de rythme avec les Brestois notamment, qui mettent beaucoup d'intensité, mais les Niçois à l'attaque avec Evan Guessant, faut pas le laisser partir dans les dribbles, il est en grande forme en ce moment Evan Guessant, il est très bien pris par Pierre Lesmelou, qui va pouvoir relancer avec Ajorque qui a décroché, il lui remet à Lesmelou, on est maintenant côté gauche avec Madi Camara, il y a Jordan Amavi qui va dédoubler, Madi Camara va rester intérieur avec Lesmelou qui remet à Camara. On va peut-être passer à droite, il y a Del Castillo qui lève les bras pour récupérer le ballon, avec Ali Abdi qui va essayer de le cadrer, il rentre intérieur, Del Castillo il va changer côté gauche vers Jordan Amavi, c'est bien, ça étire bien le bloc niçois, l'appel de Mama Baldé à la lutte avec Abdelmonem, superbement défendu de la part de l'Égyptien à l'épaule, au physique, il a parfaitement cadré l'attaquant brestois, ça va donner une sortie de but pour Marcin Boulka avec qui a fait donc le premier arrêt du match tout à l'heure, décisif sur cette frappe de Lesmelou après une prise de risque un peu inconsidérée de la part de Pablo Rosario. Les Brestois qui restent extrêmement haut puisque la joueur qui est déjà dans la surface de réparation pour sauter sur les pieds de Marcin Bulka. On va relancer côté gauche avec Dand. Faut peut-être jouer intérieur avec Youssouf. On va jouer justement avec lui, avec Boga. Finalement, il y a Ali Abdi qui a poursuivi côté gauche. Il est passé Boga. Oh, il est tout seul. Jonathan Clos, il est tout seul. Faut armer. Il va armer. La frappe croisée, c'est trop croisé. Ça va passer un mètre, deux bons mètres, à peu près de Bizot.
La passe, elle est trop sur Clos. Il doit la mettre un peu plus devant Klaus, ça fait gagner du temps là. Elle est trop sur lui.
Ouais, limite pour qu'il n'ait pas le temps, qu'il n'ait pas besoin de contrôler. Ouais. Ouais, effectivement, Jérémy Boga qui avait quand même transpercé facilement la défense brestoise, le milieu brestois en l'occurrence. 13 minutes de jeu, Georges, 0-0 entre Brest et Nice. Et je ne veux pas oublier de te dire qui a donné le coup d'envoi virtuel parce que je sais qu'il t'a fait vibrer cet été au jeu. Dans ton sport préféré, médaille d'argent pour l'équipe de France. Le Brestois, Valentin Madouas.
Fan du stade brestois.
Grand fan du stade brestois. Il passe à l'entraînement régulièrement. À Valentin Madouas, il était tout fier avec son écharpe rouge et blanche de donner le coup d'envoi de cette rencontre. Applaudi évidemment comme il se doit. La 13e, 0-0.
Allez, on se retrouve dans quelques
jeux. Attention, est-ce qu'il y a un jeu? Il n'y a pas un jeu, il n'a pas sifflé. Étonnant, j'avais l'impression quand même qu'il était. Ah bah, il siffle maintenant. Ça, c'est toujours agaçant. Il a touché le ballon au moins trois fois, Mohamed Ali Chaud. Et l'arbitre assistant a mis du temps à siffler. Sans conséquence. 0-0 la 13e.
On se retrouve dans quelques instants à Francis Leblay pour la suite de ce Brest-Nice. On suit également Kachanov, un Bayern demi-finale à Bercy. Il est reparti sur le coup, Kachanov. 3-2, service pour le Français. A tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Georges Quirino.
Avec coach Courbis en studio pour la suite de cette 10e journée de Ligue 1 Brest-Nice. Il y a également du tennis à Bercy. On a Formule 1 dans quelques instants avec les qualifications du Grand Prix d'Interlagos. Il y aura même de la Ligue 2 tout à l'heure avec la rencontre entre Guingamp et Grenoble à 20h avec Morgan Maury au commentaire. Mais tout de suite, on refile à Francis Leblay. Stade Brestois au GC Nice. Xavier Grimaud, 17 minutes de jeu.
Et toujours 18 minutes 0-0. Attention, Mohamed Ali Choboga, pardon, dans la surface. Où c'est dégagé par Bizot, derrière c'est Guessant qui aurait pu reprendre. C'est bien joué. Ouais, il doit sans doute faire mieux. C'était une superbe passe en tout cas, limite hors jeu, juste dans un petit trou de souris. Le contrôle était bon de Boga pour se retourner, mais peut-être qu'il met pas assez de puissance Roland dans sa frappe. En tout cas, c'est sorti par Bizot.
C'est quand même des occasions, tu vas pas en avoir 50 d'occasions comme ça pour le moment. On n'est même pas à 20 minutes. Il y a 3-4 situations que ça doit faire quand même un but.
Ouais, notamment pour les Niçois, essentiellement, à part la frappe de Lesmelou.
Voilà, il y a eu ça aussi. Mais bon, c'est un match intéressant dans le sens qu'on sent les deux équipes qui ont l'envie de gagner, tout simplement.
Ouais, exactement, et dans l'intensité qu'ils mettent et dans la qualité pour l'instant, même s'il y a quelques erreurs techniques côté Brestois notamment qui agacent un peu Eric Roy, notamment Hugo Magnetti qui a raté plusieurs passes. On sent aussi deux équipes qui peuvent postuler très certainement à la première moitié de tableau. Alors Nice, évidemment, c'est l'ambition. Brest aussi, donc c'est intéressant de voir la façon dont ils jouent. Pour l'instant, on les sent ambitieuses, alors que l'enjeu aurait pu un petit peu tuer le jeu, comme on dit un peu le poncif. Et pour l'instant, il y a le rythme intéressant dans ce début de rencontre. On a vu une sortie aussi de Marco Bizot au-delà de ses 25 mètres pour couper une action où Mohamed Ali Chaud était parti en profondeur. Vraiment le sentiment que Mohamed Ali Chaud était hors jeu, mais l'arbitre assistant tout à l'heure qui avait mis du temps à lever, là il n'avait pas levé du tout. Attention, Niçois encore. Boga, il se régale. Hein. Boga, se régale. Il faut la laisser à Boga, sinon il y a hors jeu. Il y a Abdi qui la laisse à Boga. Boga qui crochette. Boga qui frappe. C'est détourné. Ça revient. Entrée de surface. Youssouf, ça va passer au-dessus. On n'a pas l'impression qu'il mette beaucoup de vitesse, Boga, mais contre, il passe comme dans du beurre. Hein.
On a l'impression, pour ne pas dire la certitude, qu'ils vont peut-être regretter toutes ces occasions.
Ah, effectivement, là ça commence à s'accumuler hein, pour les Niçois. Marco Bizot qui doit déjà s'employer sur le début de ce match pour les Brestois.
Ouais, effectivement, les Boga pour l'instant il est assez facile. On revoit sa frappe du pied gauche là sur au ralenti. Effectivement, il la met au sol. Bizot qui reste bien sur ses appuis, qui peut la dégager du pied. Et là, c'est des mains que Marco Bizot dégage ce tir. Ouais, on doit être au moins sur trois grosses occasions pour Nice, plus deux situations qui auraient peut-être pu être mal gérées. Ça fait beaucoup pour les Brestois. C'est bien de mettre du rythme, mais attention, faut serrer aussi derrière pour les Bretons. 0-0 malgré tout la domination de la part de l'OGC Nice.
On vient de voir dans quelques instants Xavier, mais il faut absolument qu'on file à Bercy. Eric Salio, demi-finale du Masters 1000. Hugo Humbert face à Karen Khachanov. On est dans le troisième set décisif. Il est en train d'enflammer Bercy là, Hugo Humbert.
Ouais, parce qu'il vient de creuser le break dans cette troisième manche. 4-3 pour Hugo Humbert. On vous l'avait dit, Khachanov est désormais, c'est officiel, il est diminué physiquement. Il ne peut plus bouger comme avant. Alors, il entretient l'espoir avec son service, mais là, il n'a pas pu tenir son jeu de service. Et Khachanov est aux abois. Et Hugo Humbert, qui n'hésite pas à l'attaquer, à le faire bouger. Et il s'en fiche s'il est blessé. Il le montre au public avec des gestes. Il veut aller chercher la gagne. Et tant pis si l'autre est blessé. Il faut jouer avec. Encore deux jeux. Et Hugo Humbert décrochera sa place en finale. Il va servir dans quelques secondes. 4-3.
Et bon, on va revenir te voir dans quelques instants. Mais avant cela, un détour. Je vous rappelle, Brest-Nice 0-0. On est parti depuis 20 minutes. Un détour par le Parc des Princes. Où il y a quelques instants, le PSG s'est imposé 1-0 face à Lens. But d'Ousmane Dembélé. Aurélien Tiercin est dans les travées du Parc des Princes. Il est où exactement là, Aurélien? Il
attend Lucien Riquet. Salut les amis. Bah écoute, si ça résonne un petit peu, c'est que je suis juste à l'extérieur de la salle de conférence de presse. Ah. On attend Will Steele et Luis Enrique. Mais normalement, on a un petit peu de temps au Paris Saint-Germain. Ça vient tard.
Bon, victoire parisienne cet après-midi face à une équipe lensoise qui a joué à 10 hein, en deuxième mi-temps avec l'expulsion de Koussanov. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette victoire parisienne aujourd'hui, globalement maîtrisée quand même?
Ah oui. Bah c'est presque un grand classique au Parc des Princes finalement. Le Paris Saint-Germain qui ne tue certes pas le match assez tôt, qui tue jamais le match d'ailleurs puisque la victoire c'est un seul but à zéro. Mais grosse domination. Il fallait un miracle pour que Lens mette un but. Alors on en discutait avec les collègues. Mbalazzola c'est un petit peu faiblard devant. Il a beaucoup de qualités physiques, mais pour tenir le ballon entre Marquinhos, João Neves, Vitinha et Pacho, c'était pas possible. Donc il y a quand même un Paris Saint-Germain très consistant. Ça manque d'avant-centre, mais on le sait, c'est un faux neuf. Marco Asensio a eu des occasions, il les a ratées. Bradley Barcola, très belle passe décisive pour Dembélé, mais il a eu des face-à-face, il les a manqués. Très gros match aussi de Brice Samba, c'est à signaler, parce que sinon Paris aurait marqué plus de buts. C'est la meilleure défense du championnat, Lens, et Brice Samba n'y est pas pour rien. Il a fait un très très gros match encore. Est-ce que c'est rassurant au point de défier l'Atlético de Madrid mercredi en Ligue des Champions en étant serein à 100%, je sais pas.
Ouais, mais parce qu'il y a quand même quelques manques. Parler de l'Atlético de Madrid comme d'une équipe monstrueuse. C'est une bonne équipe qui pour moi n'est pas supérieure à l'effectif du Paris Saint-Germain.
T'as raison coach, est-ce que le PSG est à 100% en ce moment? Est-ce que le PSG est capable de dominer autant ses adversaires en Ligue des Champions qu'en Ligue 1? Parce que quand on voit le match contre le PSV, il y a un problème d'efficacité, sauf que t'as encaissé un but dans ce match-là et tu sors avec des regrets. Ce soir, il y a pas de souci, tu gagnes 1-0, mais c'est à peu près le même type de match. Ouais, il y a des occasions pour Lens, si Andy Diouf, il est droitier et pas gaucher, il peut reprendre le ballon, ça fait un partout.
Il s'est passé quand même quelque chose dans le classico pour le Paris Saint-Germain. Qui sort d'un mauvais match, appelons un chat, et qui gagne à Marseille avec autant de facilité, un peu aussi à cause du match raté de l'Olympique de Marseille, mais ça fait quand même un PSG en pleine confiance. Et là, ce soir, il y a quand même les trois points. Quand on voit le nombre d'occasions, le nombre d'arrêts de Brice Samba, on se dit, ils vont le payer, il va y avoir une égalisation des Lensois. Eh ben non, ça se passe pas comme ça. Donc, je vais voir avec beaucoup d'attention le match contre l'Atlético. Mais je pense pas que l'Atlético va gagner ce match.
Merci Aurélien. Si jamais il y a un mot, une phrase intéressante de Luis Enrique que tu veux absolument nous partager, évidemment l'antenne t'es ouverte, tu peux passer la porte maintenant et aller voir Luis. Merci Aurélien, victoire du Paris Saint-Germain 1-0 face à Lens. Brest-Nice, 24 minutes 0-0. On retrouve Xavier Grimaud dans quelques instants, mais direction Bercy. Eric Salio, demi-finale. Humbert Khachanov, il est à un point du match. Hugo Humbert, un jeu du match. Ah ouais, mais on s'enflamme avec lui.
Ah ouais, 3 points, si tu préfères, parce qu'il y a 0-15 sur le service de Khachanov. 0-30.
Il n'en peut plus,
Khachanov. Il est aux abois. L'estocade, il est en train de la porter, Hugo Humbert, avec un talent extraordinaire, un courage.
Parce que
après la peur du premier set, il fallait garder la tête hors de l'eau. Et bien, il l'a fait. Avec courage, il a d'abord recollé au score, et puis il y a eu cette blessure de Khachanov il y a environ un quart d'heure, les ischios, la cuisse, et Khachanov il peut plus rien faire, il peut plus bouger. Donc dans quelques secondes ça va être la délivrance et on aura un français en finale de Bercy.
Ouais. Pardon ? Il avait dit quadriceps, coach.
Il dit quadriceps, mais tu ne me fais pas confiance.
Ouais, oui, faut l'écouter.
Il a dit les ischios.
C'est pas la même chose. Hein.
Allez, à deux points du match, Herbert.
Enfin bon,
deux points d'une finale.
Il avance plus, Karen, et on est triste pour lui, bien sûr. Hein, mais un Français en finale, ça se prend, surtout pour la DER à Bercy. Puisque vous savez comment. Oh là là, il est à terre, Katsanov. Je pense qu'il ne finira même pas le match.
Non.
Oh, c'est terrible. Ah, il a été planté là. Il est à terre. Ah là là, le pauvre. Ah, non, mais faut, à 40-0, il y a trois matchs de match.
Eric,
je sais pas s'il va les jouer. Il se relève. Mais c'est un garçon qui est. Oh là là, il peut plus. Il s'est relevé, mais à grand peine. Et là, il est touché physiquement. Là, il peut plus. Mais je crois que le garçon va quand même jouer le dernier point.
Là, il y a trois balles de match pour Hugo Humbert. Il faut expliquer.
Balles de match. D'autres auraient abandonné, mais pas Katsanov. Et beaucoup de respect pour lui. Voilà.
C'est fini.
Dans quelques secondes, Hugo, qui finit ce match. C'est fini. Hugo Humbert est en finale de Bercy. Et un grand respect pour Karen Katsanov, qui a joué le dernier point, alors qu'il pouvait plus, absolument plus bouger. Victoire donc de Hugo Humbert en trois manches, 6-7, 6-4, 6-3. Il jouera demain la finale contre Alexander Zverev. Ce sera le remake du match de l'an passé qui avait duré 3h31. Hugo Humbert, cinquième Français en finale ici à Bercy. Après donc Grosjean, après Forger, après Tsonga et Gaël Monfils. Chapeau Hugo.
La dernière finale d'un Français à Bercy, c'était en 2011. Joe Wilfried Tsonga battu par Roger Federer. Eric, on reste un peu avec toi, raconte-nous les scènes là, parce que c'est un peu plus qu'historique quand même pour le tennis français. On a tellement souffert, il faut profiter de ces images.
Avec Karen Khachanov qui à l'instant va quitter le court et elle reçoit quand même des applaudissements parce que le public sait qu'il ne pouvait plus finir le match et il aurait très bien pu abandonner parce que vraiment quand il a chuté là il était au fond de la mine, mais voilà, il a eu du respect pour son adversaire, pour Hugo Humbert et pour le public, pour les 14 000 spectateurs, parce que de toute façon il aurait reçu une bordée de sifflets s'il a abandonné, parce que les gens n'auraient pas compris qu'il abandonne à un point du match. Et Hugo qui est en train de ranger ses affaires dans son sac.
Incroyable.
Il va ensuite dire quelques mots au micro de Marc Maury devant la foule. Finale pour Hugo Humbert, c'est incroyable. Il va monter 15 mondiales, tout près de son meilleur classement. Et pourquoi pas un titre pour célébrer en beauté la fin de cette aventure ici à l'Accor Arena. J'ai envie de dire au PEPB, lui ensuite à l'Accor Arena. Chapeau Hugo, il va peut-être aller au bout de son rêve, alors qu'en début de semaine, c'était pas évident. Mais ce match contre Alcaraz a tout changé, genre, c'est clair.
Et oui, effectivement, ce huitième de finale avec Carlos Alcaraz. On va rester avec toi, Eric. Peut-être qu'on va pouvoir l'entendre dans quelques instants au micro de Marc Maury. On va tendre l'oreille parce que là, Eric, c'est l'événement du week-end hein, pour le sport français d'avoir Hugo Humbert en finale. On rappelle, ce sera face à Alexander Zverev qui s'est imposé facilement dans l'après-midi hein, face à Olga.
Hugo Humbert qui montre le poids encore, il va se présenter devant le micro qui est placé au milieu du court et Marc Maury, je ne sais pas si on va l'entendre hein, mais je ne sais pas, vous entendez là? Pas trop.
On va l'écouter un petit peu, on entend Marc Maury, on entend l'ovation de Bercy.
Bon bah c'est l'essentiel. Tu es allé chercher ce match, ouais. Bon, vous me dites hein, si vous l'entendez.
On l'entend un petit peu. Vas-y, dis-nous ce que dit Marc Maury. On va écouter dans l'oreille pour Hugo. On entend l'ovation, évidemment.
Vers le stade,
merci à vous. C'était un match un peu plus compliqué aujourd'hui. Je suis passé par plein d'états. Je me sentais un peu moins bien que les autres jours. Mais voilà, le plus important, c'était de me battre jusqu'à la fin. Et puis voilà, vous m'avez donné l'énergie supplémentaire parce que je commençais à être un peu dans le dur au début du troisième et ça m'a donné un second souffle, donc merci à vous.
Vous avez entendu alors?
Et on l'a entendu évidemment pour l'aide de Bercy qui l'a aidé à rester.
Il était dans le dur, hein,
dans ce match, ouais, effectivement.
Il était beaucoup moins bon, disons les choses franchement, que hier et avant-hier. Je pense qu'il y a la fatigue physique et il y a eu beaucoup de fautes directes, mais finalement il s'est accroché. Peut-être qu'à un moment il s'est dit mais l'autre il est peut-être aussi touché que moi, et finalement c'est ce qui s'est passé. Khachanov a craqué physiquement avec cette blessure au quadriceps, comme l'a dit Roland, et la fin de match c'était un simulacre de match. Mais bon, parfois tu peux être perturbé par une blessure hein. C'est comme dans le foot, parfois tu peux te retrouver à 11 contre 9 et tu peux perdre le match. Et ben là il a été solide dans la tête et donc il est allé chercher cette qualif. On le retrouvera donc demain. Ouais. À 15h face à Zverev.
Oh là là.
Zverev, il a dû bien apprécier le scénario du match quand même, parce qu'on a plus de 2h, hein, 2h40 de match. Ça va laisser des traces dans les jambes d'Hugo, qui l'a dit en plus, il vient de le dire. Il n'est pas au mieux physiquement, donc je pense qu'il y a une fatigue physique qui est légitime. On est en fin de saison.
Ah, mais oui.
Et il y a eu des matchs très durs, notamment contre Alcaraz.
Bon, la fatigue, elle est aussi à l'intérieur du cerveau, parce que toutes ces émotions, ne serait-ce que le match contre Alcaraz, c'est pas seulement un match de tennis, mais arriver à poser des problèmes à Alcaraz et arriver à le battre, ça laisse quand même des souvenirs. Hein.
Victoire donc de Hugo Guitaver, qui va participer à la première finale de sa carrière en Masters 1000. Ce sera demain, tu nous l'as dit, Eric, à 15h. Dans ton ovation de Bercy, ouais, à sa sortie, et du coup incroyable cette ambiance à Bercy pour la dernière fois à Bercy. Eh bien, on aura un Français en finale. Si ça, c'est pas un superbe jubilé pour cette salle. On rappelle que ça aura lieu ensuite à la Paris de la Défense Arena à partir de l'année prochaine. Imbers, Verret, le rendez-vous ne pas manquer demain à 15h. Ce sera évidemment assuré avec toi, Eric, sur AMC. Si tu veux revenir plus tard et que tu as une réaction à nous faire vivre de Hugo Imbert, évidemment, tu es la bienvenue dans l'Intégral Foot et tout à l'heure avec François Pinet qui prendra la suite à partir de 21h. Tiens, rapidement, avant de faire une petite pause, on joue depuis une demi-heure entre Brest et Nice. Xavier Grimaud, Francis Leblay.
Oui, la 31e, toujours 0-0, mais il y a encore des situations. Il y a une frappe de Mama Valde qui est passée à côté, des buts de Boulka, une tête difficile de Ludovic Hajor, captée par Boulka. Il y a eu un gros temps fort niçois quand même, mais là, ça s'est à nouveau équilibré. La 31e, toujours 0-0 à Leblay.
Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette rencontre. A tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Georges Quirino.
Avec Coach Courbis en studio, on a vibré il y a quelques instants pour la qualification de Hugo Imbert en finale du Masters 1000 de Bercy. Et oui, il y aura un Français en finale d'un Masters 1000 en tennis. Ce sera demain face à Alexander Zverev à 15h. Hugo Imbert qui a battu le Russe Karen Khachanov 6-7, 6-4, 6-3 en 2h40. La victoire du Français. Dans quelques instants, on va filer au Brésil où normalement on aurait dû avoir les qualifications du Grand Prix de Formule. Là, on va retrouver Jean-Luc Roy. Ça a été un petit peu retardé à cause de la pluie, mais d'abord on file à Francis Leblay. Brest face à Nice. On a passé la demi-heure de jeu, Xavier Grimaud.
Oui, on joue la 35e exactement. Toujours 0-0. Un coup franc pour les Niçois. Une semelle de Jordan Amavi sur Bombito. Le coup franc qui sera tiré par Jonathan Klaus. Tiré point de pénalty. C'est dégagé par Madi Camara. Attention, deuxième ballon, entrée de surface avec Boga qui tente de se la lever pour ensuite frapper. Il y a Dante qui va la remettre dans la boîte. Personne n'a suivi. C'est contrôlé par le Cardinal, le ballon en l'air à nouveau, mais c'est gratté, gagné par les Niçois avec Dante pour Rosario. Rosario qui a deux joueurs face à lui, il va obtenir la touche. C'est bien joué. Il y a eu des frappes encore, notamment une frappe brestoise sortie par Boulka. On en est à 8 tirs pour les Niçois, 5 tirs pour les Brestois. Il y a deux arrêts pour chaque gardien, mais les arrêts les plus déterminants ont clairement été ceux de Marco Bizot. Les Niçois qui ont eu les plus belles situations. Pour l'instant, toujours 0-0. Match assez agréable à suivre, même si le rythme est un petit peu retombé. 7 minutes avant la pause. 9 minutes, pardon, avant la pause.
Dans ce Eric Roy Ico, hein,
j'en oui, c'est vrai.
Eric Roy qui forcément a un attachement très important à l'OGC Nice.
Oh, il est passé à Ali Abdi, il est passé face à l'Alain dans la surface, le centre, c'est bien joué, le but. Le magnifique centre en retrait d'Ali Abdi. Un centre qui sent le foot, hein, il sait que c'est ça qu'il faut faire, il peut donner à qui? C'est Youssouf, c'est Bombito, c'est
Mohamed Alichaud.
C'est Alichaud qui arrivait parfaitement lancé. Là, la passe Roland, elle est parfaite, hein, pile dans la course. Allez, il met complètement la défense sur les talons.
L'occasion qui devient un but.
Ouais, exactement, et magnifique travail de la part d'Ali Abdi. Il s'emmène parfaitement le ballon, il fait exactement le centre qu'il faut. Ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. C'est mérité sur l'ensemble de la première période. La 37e, 1-0 pour les Aiglons.
Il était bien seul quand même, Ali Abdi, coach, là, pour aller récupérer ce ballon sur son côté. Ils ont fait ce qu'ils voulaient en deux passes, les Niçois. Là,
ouais, hein. mais disons que bon, au niveau de la distance de marquage entre l'arrière droit et justement.
Abdi.
Ouais. C'est quand même pas terrible.
Ouais, je pense qu'Eric Roy, il aurait préféré que son joueur soit un peu plus proche. Effectivement, 1-0 pour le GC Nice. Donc, but de Mohamed Alichaud. On allait passer les 37 minutes déjà. On se retrouve dans quelques instants. Xavier, je rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 tout à l'heure face à Lens. But d'Ousmane Dembélé. On va vous présenter également dans quelques minutes Saint-Etienne-Strasbourg. Ce sera à suivre ce soir à 21h. Valentin Jamin et Edouard G seront aux commentaires. On a un œil également, coach, sur la boule Bundesliga, c'est la mi-temps entre. Ça vient de repartir en deuxième période entre le Borussia Dortmund et Leipzig. Un partout pour l'instant entre les deux équipes. C'est ce qu'a ouvert le score d'ailleurs.
Position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Le but est refusé. Position de hors-jeu. Alors j'ai l'impression qu'Ali Abdi part de l'arrière. Donc,
c'est Mohamed Ali Chou qui serait éventuellement.
Bah non, non, c'est sur une passe en retrait, c'est pas possible. Ou alors c'est assez longtemps avant l'action. Hein.
Non, c'est la transversale. Non
transversale, ouais, la transversale. Bah ouais, mais j'ai l'impression que Abdi, pourtant, il prend de vitesse Kenny Lala plus que, qu'autre chose. En tout cas, l'arbitre de touche qui est du côté de la moitié de terrain brestoise, il est un peu aux fraises quand même depuis le début de la rencontre. Soit il est en retard, soit il lève pas. Et là, bah, il fait a priori encore un peu trompé. Et arbitrage vidéo et Monsieur Turpin donc a annulé le but. Bon, on va regarder le ralenti avec attention parce que j'avoue que
on
je suis un peu circonspect.
Là pour le coup, ouais. On n'a pas revu la séquence. Mais
et bah, toujours 0-0, il n'y aura pas le combientième, le troisième but de la saison pour Mohamed Ali Chou en Ligue 1. Il est annulé.
Ça a râlé côté niçois un petit peu quand même.
Non, bah, non, pas spécialement. Ouais. Pas spécialement.
Avait, peut-être qu'on l'avait vu et ils se sont dit, ah, mince, on a été rattrapé par la patrouille. 0-0, donc but annulé de Mohamed Ali Chou. 0-0 entre Brest et Nice. Je vous le disais, un partout entre Dortmund et Leipzig. On est dans le début de la deuxième période. Ça permet de faire rapidement un petit tour d'Europe. Coach, première ligue surprenante aujourd'hui, dixième journée. Arsenal s'est incliné 1-0 sur la pelouse de Newcastle. Manchester City, première défaite de la saison en première ligue, qui a perdu sur la pelouse de Bournemouth de Buzyn.
On s'aperçoit que les stats, quand on nous dit que quand il n'y a pas Rodri, c'est pas tout à fait pareil, même si on est en football, dans un sport collectif. Ben, on s'en aperçoit encore aujourd'hui.
Et ils étaient menés 2-0, Guardiola avait réussi à réduire l'écart, mais ça n'a pas suffi. Donc défaite 2-1, Liverpool s'est imposé face à Brighton de Buzyn, Gakpo et Salah, et Nottingham Forest, surprenante équipe également, qui a gagné 3-0 face à West Ham.
Alors j'ai l'explication
Xavier
pour
Grimaud, Brest-Nice sur le but annulé des Niçois.
Ouais, donc a priori c'est faute de Guessant sur Marco Bizot. Effectivement il le tamponne, c'est Guessant qui percute Bizot et est considéré hors jeu. Voilà l'explication du but refusé. Alors, effectivement on voit que Guessant tape Bizot avant que Mohamed Ali Chou reprenne le ballon. Voilà, ça nous avait échappé. Attention à Boga, c'est peut-être pas terminé pour les Niçois. Abdi sur son mauvais pied et ça s'est vu. Ça passe très largement sur ce début de Bizot.
Ça sert quand même cette barre.
Et ouais, finalement, hein. Finalement.
Là, quand même, on allait chercher le moindre détail. Mais on voit bien que les Niçois continuent d'être à l'attaque. Hein, ouais, quand même. Xavier toujours 0-0. Il reste encore 5 minutes dans le temps réglementaire de la première période. Et donc je vous disais, Liverpool du coup est seul en tête désormais avec 25 points. City deuxième 23. Un mot de Serie A puisque Bologne s'est imposé face à Lecce, on s'y intéresse parce qu'ils vont recevoir Monaco mardi en Bundesliga. On y était là, Dortmund Leipzig c'est en ce moment. Bayern Munich s'est imposé 3-0 face à l'Union Berlin, 3-0 le double de Kane et Kingsley Coman. Également on va laisser le football une petite seconde pour aller au la Formule 1. Jean-Luc Roy est avec nous. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Georges, salut coach et bonjour à tous.
Salut Jean-Luc.
Grand Prix d'Interlagos. Alors moi Interlagos ça me rappelle à chaque fois de grands souvenirs. Ça me rappelle 2008 quand Felipe Massa pensait qu'il était champion du monde et Lewis Hamilton finalement dans le dernier virage avait gagné. Et le seul commentateur au monde à l'avoir vu, c'était Jean-Luc Roy, je m'en souviens en commentaire sur RMC avec Julien Febron. Bon, la course sprint a été gagnée tout à l'heure par Lando Norris. Max Verstappen a été pénalisé, il était troisième, finalement quatrième. On devait avoir les qualifs là depuis 19h, c'est un petit peu retardé, c'est ça Jean-Luc hein?
Eh oui Georges, désolé. Bon là il est vraiment tombé beaucoup d'eau tout à l'heure. C'est vrai que c'est toujours un petit peu désolant parce que la pluie, bah, ça fait partie du jeu évidemment, et ça permet à certains pilotes d'exploiter leur qualité et puis surtout de compenser le déficit de puissance ou d'efficacité de leur monoplace. Bon, c'est comme ça, maintenant on prend beaucoup de précautions. Bon, encore une fois, tout à l'heure c'est tombé énormément, mais là on a finalement délayé, retardé le départ de ces qualifs. Alors si tout va bien, ce sera dans moins de 20 minutes.
Cette fois il va être accordé le but d'Issa. Une merveille de centre encore d'Ali Abdi, deuxième poteau. Alors qui reprend ce ballon? C'est Evan Guessant qui reprend. Ouais, c'est Evan Guessant évidemment, le serial buteur niçois, son sixième but de la saison, le troisième en trois matchs de Ligue 1. Là Roland, le centre il est parfait hein. Mais il y a énormément d'absence du côté du marquage dans la défense brestoise. Là il n'y aura pas de doute, 1-0 pour Nice.
Ça reflète quand même la physionomie de clairement ce qu'on voit depuis le début là.
Quel mouvement des Niçois là, vraiment sur ce but de centre d'Abdi, effectivement il est parfait, il est là.
C'est à ma vie qui n'est pas au contact d'Evan Guessant. Et franchement le centre d'Abdi il est parfait parce qu'il est dans une zone où c'est trop compliqué de sortir pour Bizot.
Il n'a pas été gêné par un défenseur de
pour le centre, pour le faire.
Il a été vraiment tranquille comme j'ai lu là.
Globalement il a plutôt le temps.
C'est vrai qu'il peut faire un peu un atelier centre un peu tranquillement. Mais il l'est fait bien.
Sixième but en Ligue 1 cette saison pour Evan Guessant qui est lui aussi toujours là où il faut cette saison. 1-0 pour les Niçois. On se retrouve dans quelques instants, Xavier. Il reste moins de 3 minutes. 1-0 face à Brest. On retourne au Brésil. C'est un autre endroit. Jean-Luc Roy, on t'a coupé. Désolé pour présenter. Tu nous disais, il y a eu la pluie aujourd'hui. On est sur un ciel chargé à Interlagos. Alors après la course sprint, Jean-Luc, il y a désormais plus que 44 points d'écart au championnat du monde des pilotes entre Lando Norris et Max Verstappen. On a vu que les McLaren, elles marchent bien sur ce circuit, non, avant les qualifications.
Ah bah oui, elle fonctionne très très bien. On avait vu effectivement Oscar Piastri arracher la pole au dernier moment, à l'arracher à Lando Norris. D'ailleurs, ça a donné quelques chaleurs à Lando Norris avant que Radio McLaren émette évidemment et demande à Piastri de laisser passer son leader, ce qui a été fait à deux tours de l'arrivée. Et c'était limite, hein, parce que c'était juste avant la sortie du virtuel safety car. Alors là aussi, tu vas rire ou sourire. Comme par hasard, ça a coûté encore une place à Max Verstappen, parce qu'on lui reproche d'avoir été un peu trop près effectivement d'Oscar Piastri. Semble-t-il, il se serait rapproché à quelques dixièmes de trop. Donc bim, la pénalité est tombée. Après les 20 secondes du Mexique, il en prend 5 là. Donc moi je pense que l'exercice de Verstappen maintenant, ça va être d'essayer de passer entre les gouttes, mais pas les gouttes de pluie, les gouttes de sanctions qui vont lui tomber sur la tête. Parce que tu le disais, on n'est plus qu'à 44 points. Allez, encore un effort la FIA, on va y arriver.
Combien il reste de Grand Prix?
Ah ben écoute, il en reste 4, celui-là inclus.
Il reste donc, Las Vegas, Qatar et Abu Dhabi derrière.
Exactement, exactement.
Donc, il y a encore du suspense. Hein.
Il y a beaucoup de suspense. Hein.
Ah, oui.
Et puis on voit bien que dans l'état actuel de la situation, effectivement, les McLaren, comme vous le disiez, sont extrêmement performantes, tant sur un tour qu'en course. On a bien vu qu'en course, là, même si, malgré le talent de Verstappen, et puis les Ferrari, on a été un peu déçus, parce que je pensais moi aussi qu'en course, elles seraient aussi bien qu'elles l'ont été lors des deux derniers Grands Prix. Mmh. Ça n'était pas le cas. En tout cas, ça n'était pas le cas pour le sprint, hein, mais ça peut être peut-être un peu mieux demain. Et puis on sait qu'au championnat constructeur, qui est extrêmement intéressant aussi, on a donc McLaren en tête avec 581 points, ça c'est après le sprint, hein. Mais la Scuderia Ferrari est remontée à 547, donc il n'y a que 34 points d'écart, puis on ne va pas totalement écarter Red Bull qui est à 518, à 29 points derrière. Non, franchement, cette année il y a du suspense, on ne va pas pleurer sur ça. Hein.
Et Calife alléchante qui nous attend dans quelques instants avec toi dans un quart d'heure si tout se passe bien, donc à Interlagos. Moi je suis curieux de savoir comment Max Verstappen, après avoir pris une pénalité sur la course au sprint, et dans quel état d'esprit il va arriver sur les qualifs. On va suivre tout ça avec
la
toi.
Rage.
Jean-Luc, il va falloir qu'il nous le décrive. Je pense qu'il va rentrer avec le couteau entre les dents dans chaque courbe. On se retrouve dans quelques instants, mais d'abord la fin de la première période entre Brest et Nice, 1-0. Ouh, pour
c'était
les Niçois.
c'était chaud sur le but brestois. Bombito sur ce corner tiré par Jérémy Boga qui reprend le ballon et il n'arrive pas à mettre assez de puissance. Mais là encore, il était bien, bien seul. Franchement, défensivement, c'est vraiment pas à la hauteur. Hein, ce que font les Brestois, je sais pas si c'est un manque de concentration, mais ils sont très très loin des Niçois sur chaque ballon dans la surface de réparation. Et Ali Abdi encore juste avant pour obtenir ce corner, il s'est un peu joué facilement de Kenny Lala, que ce soit Mavi ou Kenny Lala. Alors, pour l'instant il passe une mauvaise soirée les deux latéraux brestois.
On va regarder avec impatience et curiosité les changements d'Eric, parce que c'est indispensable de changer cette équipe de Brest là de ce soir. On ne la reconnaît pas du tout dans aucun secteur.
Non, on les a reconnus le premier quart d'heure, dans au moins le rythme et l'intensité qu'ils mettaient. Mais sinon, effectivement, techniquement et défensivement, dans la concentration, dans tout ce qu'on veut, ils ne sont pas là, les Brestois. Ils se font logiquement dominer par Nice. Et 1-0, on va dire que c'est un moindre mal. C'est la mi-temps, sifflé par Monsieur Turpin. Le buteur, c'est Evan Guessant. À la 42e, son 6e but de la saison. 1-0 pour l'OGC Nice qui remonte provisoirement quand même à la 5e place. C'est le gâteau à la crème du jour, hein, la cerise sur le gâteau pour le vainqueur du match. Et pour l'instant, il croque dedans avec appétit les Niçois. 1-0 à la pause.
Et les Niçois qui avaient remporté leur derby face à Monaco, souvenez-vous, le week-end dernier. Oui, coach, j'étais surpris quand même de l'attitude des Brestois sur cette première période. Tu attendais à cette domination niçoise.
Le comportement sur le plan défensif. Sans vouloir chambrer, taquiner, mais ils font exactement ce qu'il faut pas faire, tu vois, dans la distance de démarquage, dans la virilité, dans la combativité. Ils sont tout simplement méconnaissables. Donc, ça peut se faire une première mi-temps. La deuxième, il va falloir rectifier ça rapidement, sinon il y a aucune chance de gagner ce match-là.
Ben oui, c'est vrai, là, il y a un joueur qui a un couloir libre, vraiment, c'est Ali Abdi qui marche un peu sur cette première période. 1-0 pour les Niçois sur la pelouse de Brest. On se retrouve dans quelques instants. Je vous rappelle que Hugo Humbert s'est qualifié pour la finale du Master 1000 de Bercy. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Georges Quirino.
Avec Coach Courbis en studio, c'est la mi-temps entre Brest et l'OGC Nice. Les Niçois qui mènent 1-0, but de Evan Guessant, le 6e de la saison à la 41e minute. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 tout à l'heure face à Lens, but d'Ousmane Dembélé, et puis que Hugo Humbert est en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Ce sera demain à 15h face à Zverev. Tout de suite, on parie.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
À la mi-temps de Brest-Nice, salut Johan, Guillet.
Salut messieurs,
c'est l'évolution des cotes.
Avec Nice, très largement favori. Maintenant 1,33, Brest est à 8,50. Le nul est à 3,75. Messieurs, j'étais parti sur le match nul en avant-match. J'allais vous proposer le 1 partout, mais il est qu'à 4,50. Donc je vais rester sur le nul sec à 3,75.
Ben oui, pareillement, moi aussi j'étais parti sur le nul. Mais c'est pas quand on a un petit but de retard que je vais changer. Donc toujours le nul.
On est bien d'accord.
À tout à l'heure, à la suite de la fin du match.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
1-0 donc pour les Niçois à la mi-temps face à Brest. Le but d'Evan Guessant. Coach, tu le disais tout à l'heure sur le direct. Eric Roy, là, il doit forcément changer quelque chose à la mi-temps.
Ah ben oui, complètement. Déjà l'agressivité, la solidité défensive. Il y a trop d'occasions pour les Niçois. Ça n'enlève pas les qualités des Niçois, mais ça fait rien. L'équipe de Brest qui joue la Champions League doit être quand même plus difficile à manœuvrer que ce qu'on voit.
Équipe de Brest qui jouera mercredi, je vous rappelle, son match de Champions League effectivement face au Sparta Prague. Ce sera à l'extérieur pour les Brestois. Peut-être que certains joueurs ont déjà peut-être un peu la tête en Ligue des Champions, tu penses, coach? On sait que non, pour l'instant ça marche bien pour eux, hein, les Brestois. C'est vrai qu'on les sent un peu hors sujet là, sur cette
première période. Je pense pas quand même. Après, j'ai pas fait le calcul des joueurs importants qui avaient été mis au repos en début de match. Ça, on va voir maintenant les différents changements qu'il peut y avoir, peut-être pas tout de suite, mais dans les 30 dernières minutes pour que cette équipe de Brest soit quand même plus solide et plus dangereuse. Sinon, il n'y a aucune chance possible de faire un résultat contre cette équipe de Nice, qui est pas mal du tout ce soir.
Dans le 11 de départ de Brest, ça ressemble quand même à une équipe type, hein, pratiquement. Il y a Brendan Chardonnay qui est le capitaine, qui est sur le banc aujourd'hui, mais ça ressemble quand même à une équipe effectivement, on va dire, avec des cadres pour Eric Roy. Tiens, on fait un petit détour par le Parc des Princes. Paris s'est imposé 1-0 face à Lens, but de Dembélé. On écoute Luis Enrique en conférence de presse. Le coach nous parle de la titularisation de Safonov.
La supériorité.
La generas cuando hay un rival que te presiona en campo contrario, como el portero es el único jugador que está libre. Pero está libre en tiempo concreto, porque el rival deja a un central o a un lateral para ir a presionar a tu portero o a un pivote. Es decir, esa estadística no vale de nada. Lo importante es que cada vez que nosotros hemos requerido de nuestro portero, ha habido un jugador que se sale de situación y deja un jugador libre en el campo. La mayoría de veces hemos encontrado situaciones positivas. Cuando encontramos esas situaciones positivas, se transforman en ocasiones de gol y no ha cometido ningún error. Si luego el balón va un poco más acertado o el delantero lo recibe o no, tiene poca importancia esa estadística. Creo que ha hecho un partido muy completo esa y hemos hecho un partido en esa situación del juego difícil.
Et dans ces situations de jeu difficiles, je crois qu'on a fait un très bon match.
Safonov a fait un match très complet, nous dit Luis Enrique. On rappelle qu'il était titulaire à la place de Gianluigi Donnarumma. Tiens, bah, c'est intéressant que Luis Enrique en parle en conférence de presse. Je sais que tu regardes
beaucoup. Tu dis, j'ai pas entendu.
Safonov.
Ah, ok.
tu l'as pas trouvé complet sur le match? Vous très bien où tu veux en venir. Je connais un peu.
Non.
Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance?
C'est difficile de le juger puisque j'ai pas vu faire quand même des arrêts extraordinaires, mais c'est pas sa faute. Hein. Donc, que ce soit un gardien de but correct, pourquoi pas. Mais j'attends de le voir différemment pour pouvoir juger.
Oui, Safonov, donc, qui était titulaire pour le Paris Saint-Germain avant le match de Ligue des Champions. Ce sera mercredi face à l'Atlético de Madrid, où on imagine qu'on retrouvera Gianluigi Donnarumma dans les buts. Paris s'est imposé 1-0 face à Lens. Tiens, on parlera de Ligue 2 également dans quelques instants. La 12e journée, Caen s'est imposé face à Bastia 2-0 cet après-midi. Et Guingamp reçoit Grenoble à 20h à Roudourou. C'est Morgane Maury qui va nous commenter cette rencontre. Salut Morgane.
Bonsoir à tous.
Avec une équipe guingampaise qui est 8e au classement, Grenoble 7e. Ouais, deux équipes qui espèrent faire une petite avancée au classement peut-être avec ce match.
Oui, exactement. Guingamp s'est sorti d'une mauvaise passe avec 3 défaites consécutives. Abattu Ajaccio lors de la dernière journée, les deux équipes se talonnent. Guingamp, Grenoble est devant avec un point supplémentaire par rapport au Guingampais. Attention, Grenoble est très mauvais sur ses déplacements. Grenoble ne gagne pas 10 défaites lors des 13 derniers déplacements en Ligue 2. Mais Guingamp a souvent du mal face à cette équipe grenobloise. Les équipes sont sur la pelouse. C'est Monsieur Kubler qui arbitre cette partie. Ça va partir dans une poignée de minutes. Georges, c'est les deux capitaines qui sont au centre pour décider du coup d'envoi. Guingamp, Grenoble, ça démarre dans 2-3 minutes.
Supporters brestois, ne vous inquiétez pas, la pelouse de Roudourou ne vous concerne pas cette semaine, puisque les Brestois jouent au Sparta Prague cette fois-ci en Ligue des Champions et non pas à Roudourou. Les Brestois les retrouvent dans quelques instants pour la deuxième période face à Nice. Nice mène 1-0. But d'Evan Guessant, à tout de suite.
MC Intégral Foot.
Georges Quirineau.
Avec Coach Courbis pour la deuxième période dans quelques instants entre Brest et Nice. Je vous rappelle que Hugo Humbert s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Bercy et il affrontera Alexander Zverev demain à 15h. Dortmund joue contre Leipzig, Dortmund mène désormais 2-1. C'est le direct. On va vous présenter également Saint-Etienne Strasbourg. Ce sera à 21h ce soir autour de François Pinet notamment qui sera aux commandes. Et puis le Grand Prix d'Interlagos au Brésil. Les qualifications qui ont été retardées à cause de la pluie, c'est dans quelques instants. On suivra ça avec Jean-Luc Roy. Mais d'abord, on file à Francis Leblay. On trouve Xavier Grimaud. 1-0 pour les Niçois à la mi-temps. Est-ce que des changements se préparent pour Éric Roy ou pour Francaise?
Écoute, a priori non. Il n'y a pas de joueur qui s'est chauffé pendant la pause. Et ce sont les 11 mêmes brestois qui reviennent sur la pelouse. Mais effectivement, ils vont devoir montrer autre chose parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur sur cette première période et Nice a largement dominé mais ne mène qu'un but à zéro avec le but de Guessant à la 43e. C'est sans doute un moindre mal avec quand même 11 tirs pour les Niçois, donc ça fait beaucoup et des grosses situations qui auraient pu être mieux gérées par Nice qui a quand même fini par logiquement ouvrir le score. Tiens, déjà une bonne récupération de balle de Lespelou pour les Brestois, le bon relais, Lespelou dans la surface, la frappe, centre-tir peut-être de Lespelou directement sur Marcin Bulka. Il y avait Ludovic Lajor qui était allez 2 mètres un petit peu en retrait. J'ai l'impression qu'il glisse, qu'il manque sa frappe Lespelou parce qu'il a l'air de s'en vouloir, mais voilà, allez, peut-être le signe d'un stade brestois un peu plus conquérant.
12e journée de Ligue 2 également que l'on suit avec Morgane Maury. Guingamp Grenoble, c'est parti très fort.
Et déjà un but pour les Guingampais signé Labo, superbe rush de Picard qui arrive dans la surface de réparation où il est pris entre 3 joueurs grenoblois. Il est bousculé, il tombe, il perd le ballon et le ballon est dévié par un joueur grenoblois vers Labo sur la gauche. Il ouvre son pied, il choisit petit côté à ras du sol et il trompe le gardien grenoblois. Diop 1-0 pour Guingamp face aux grenoblois après une minute de jeu, une minute pour inscrire ce premier but. L'horloge est à maintenant à 3 minutes 10, 1-0 pour les Bretons face aux Alpins.
Superbe mouvement des Guingampais qui avec ce succès remonterait provisoirement à la 6e place devant les Messins. On se retrouve dans quelques instants, Morgane. On retourne à Francis Leblay. Nice mène 1-0 sur la pelouse de Brest. Ça vient de repartir, coach. Surpris de voir Éric Roy pour l'instant de pas faire de changement.
Oui et non, mais bon, il va y en avoir dans un quart d'heure.
Sur la remise d'un short dans la surface.
Alexandre,
oui, vas-y Roland, pardon, ça n'a rien donné.
Non, il n'y a pas de changement pour le moment, mais je dis bien pour le moment. Je pense que dans un quart d'heure, pour la dernière demi-heure, il va peut-être y en avoir 2 ou 3.
C'est quand même rare de changer à la pause à moins vraiment d'avoir été en dessous de tout. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas été bons, mais je pense qu'Éric Roy a dû remettre un peu les pendules à l'heure parce qu'on voit des Brestois déjà beaucoup plus agressifs et qui se projettent. Il y aura un corner pour eux juste devant leur cop, le pied gauche de Romain Del Castillo, la tête d'Ajorc. Oh, allez topé cette tête piquée qui partait peut-être sous la barre. et Marcin Bulka qui la dégage en corner. C'est dommage qu'il l'ait fait peut-être taper au sol, Ludovic Ajor, qu'il baisse un peu trop la tête.
C'est ce que je te dis, elle est à moitié ratée.
Ouais, exactement.
Elle est pas à moitié réussie, toi, mais il faut regarder les choses positivement, coach.
Oui, d'accord.
Mais ça fait une grosse.
Positivement, quand il n'y a pas but.
Mais ça fait une grosse occasion. Ça fait une grosse occasion pour les Brestois. Nouveau corner. Il est à l'opposé. À nouveau pour Del Castillo. Dégagé premier poteau par Bombito. Le contrôle de la poitrine à l'entrée de surface de Magnetti. Le centre extérieur. C'est très compliqué. C'est manqué là aussi.
De l'extérieur à l'extérieur. Donc c'est pas courant.
Ça, c'est plus qu'à moitié raté.
Il a fait un extérieur. Le ballon, il est presque parti en arrière.
Bon, en tout cas, coach, on voit l'énergie brestoise là quand même. Hein. Oui, les buts de deuxième période, ils sont différents.
Allez,
hein.
On arrête de les taquiner. C'est vrai que c'est nettement mieux.
1-0 pour Nice, tiens, une information qui nous vient de Jean-Luc Roy, les qualifications du Grand Prix d'Interlagos au Brésil. Vous savez qu'il y a des intempéries sur São Paulo, les qualifications qui sont repoussées à 20h30, hein, ça devait partir à 19h, qualification très attendue, et bien notamment après la victoire tout à l'heure sur la course sprint de Lando Norris. Il n'y a désormais plus que 44 points au championnat du monde des pilotes entre Verstappen et Norris, deuxième. Je vous rappelle qu'il reste 3 Grands Prix, même 4, comme le disait Jean-Luc, en comptant ce week-end. Hein. Une victoire, c'est 25 points, hein, je te rappelle, coach, arithmétiquement. Donc, il y a encore 100 points à aller chercher.
Fort,
Ah ouais, j'ai pas fait mon bac S, mais là, a priori, je maîtrise les additions.
Bah oui.
Allez, tiens, un petit détour par Guingamp, peut-être la Ligue 2, Morgan Maury, entre Guingamp et Grenoble. C'est de la Ligue 2, effectivement.
Oui, un joueur à terre, un Guingampé est à terre, 6 minutes dans cette partie. 1-0 pour les hommes coachés par Sylvain Ripoll. But de Labo tout de suite après la première minute de jeu, après une superbe course de Picard. On est en train de s'échauffer près du banc de touche Guingampé pour peut-être effectuer un remplacement. 1-0 pour Guingamp face au GF 38 dans ce duel entre le 8e Guingamp et le 7e Grenoble.
On est à Guingamp, on est à Brest. Il n'y a pas beaucoup de distance entre ces deux pelouses. Et en revanche, on va aller beaucoup plus loin. Alors, on va aller du côté de Geoffroy Guichard. Saint-Etienne qui reçoit ce soir Strasbourg, et c'est Valentin Jamin et Edouard G qui vont nous faire vivre ça. Bonsoir les amis.
Bonsoir à toutes et à tous.
Salut Georges.
Salut coach. Bonjour à tous.
Et je crois que vous avez les compositions des deux équipes qui sont sorties, non?
J'en ai bien peur. On a un petit peu enlevé un peu le brouillard, parce que je vous cache pas, alors on n'est pas inquiet pour le match, mais il y a quelques bandes brouillard qui se baladent autour du stade.
Oh, la frappe de l'Aspelou, le poitain, c'est pas terminé. Del Castillo, quelle était belle cette action. La remise de Ludovic Ajor, qui la frappe sèche de Pierre Lespelou, qui vient fracasser le poteau sur la droite de Marcin Bulka. Il manque pas grand chose.
Un très beau but.
Ouais, un de plus pour Lespelou. Il excelle évidemment à cette distance. Il avait mis sa volée évidemment contre Leverkusen en Ligue des Champions à Guingamp justement. Ça va donner un nouveau corner pour les Brestois. Ils sont beaucoup mieux. Là enfin, on retrouve un peu le visage des Brestois. Del Castillo, premier poteau. C'est très compliqué, la tête de Le Cardinal. Ce sera une sortie de but pour Bulka. La 51e, 1-0 pour Nice.
C'est dans ce but et de ce côté aussi que Lespelou a marqué ce magnifique but de volée.
1-0 pour Nice toujours. Et comme Edouard G, Valentin Jamin, Geoffroy Guichard nous disait qu'il y avait du brouillard, on a laissé un petit peu de temps pour qu'ils puissent dissiper tout ça. Peut-être qu'ils ne voyaient pas leur fiche pour nous donner les compositions.
Là, c'est parfait.
Les deux équipes, c'est bon, vous voyez tout là.
Nickel.
Valentin,
merci.
Tu vois Edouard, Edouard, tu vois Valentin.
Non, c'est bon,
vous voyez
c'est
les
bon.
Allez, si donnez-nous les informations.
Il y en a un, c'est plus facile à voir que l'autre, mais bon, je vais pas te dire qui c'est, genre. Du côté d'Olivier Dalloglio pour les Verts, on pensait qu'il allait faire d'énormes changements par rapport au match de la semaine dernière. Eh bien non, finalement, ça va être à dose homéopathique avec Ivan Masson qui revient en défenseur latéral droit à la place de Denis Sapia. Mais pour le reste, eh bien, ce sont les mêmes joueurs qui vont débuter. Bien évidemment, j'enlève aussi Younes Abdelhamid que l'on sentait qu'il n'allait pas être titulaire, c'est confirmé. Si bien que les changements, c'est plutôt derrière, avec donc Gauthier Larsonneur dans les buts, Ivan Masson.
C'est quand même incroyable ce qui se passe pour Abdelhamid. Ce joueur-là qui a été régulier toutes les années. Et je pensais que, et je le pense toujours, parce qu'il y a un truc qui m'échappe, que c'était une très très bonne idée de récupérer ce joueur-là pour un promu, pour avoir cette expérience dans une zone qui est quand même très importante. Et là, je ne sais pas, mais je ne le reconnais plus.
Ouais, il avait été sifflé lors du dernier match ici face à Lente, alors qu'il n'avait pas forcément été ni pire ni meilleur que les autres. Ensuite, il est pris en grippe et finalement, est-ce que sûrement, coach, ça doit jouer dans la tête, hein, parce que il est sorti à la mi-temps à Angers, si bien que ça nous donne cette composition d'équipe. Donc Abdelhamid n'est pas là, Gauthier Larsonneur donc dans les buts, Ivan Masson, Mickaël Nadé, Batoubine Sika et Léo Petro pour la défense de droite à gauche. Au milieu, Pierre Ekoua, Bouchouari et Louis Mouton. En pointe, le jeune belge Tassin, David Tachvili, Zorico de son prénom, le géorgien d'un côté, et puis le ghanéen Augustine Boyakier de l'autre. Voilà pour le 11 décidé par Odéo Olivier Dalloglu.
Et aucune surprise du côté de Strasbourg, la même équipe que celle qui a battu Nantes la semaine dernière, 3-1. Petrovic, le gardien serbe prêté par Chelsea dans la cage, les trois actions à droite, Doué, Guéla Doué, dans l'axe c'est Seydouso, l'ancien Stéphanois, et sur la gauche c'est l'ancien Lyonnais Sarr, piston droit Dylan Bakoua, piston gauche Diego Moreira, milieu de terrain avec Doucouré et Santos pour protéger la défense un petit peu plus haut, Habib Diarra le capitaine, et puis devant Nanasi légèrement plus à gauche et c'est Koumara légèrement plus à droite.
Saint-Etienne, Strasbourg, les Verts qui restent sur deux défaites consécutives, hein, je rappelle notamment sur la pelouse d'Angers, les Strasbourgeois qui ont battu Nantes à la Méno la semaine dernière. Saint-Etienne, Strasbourg, on est à une semaine du derby face à Lyon, ce sera sur la pelouse de l'OL. Coach, comment tu vois cette rencontre entre Saint-Etienne et Strasbourg ce soir à 21h?
Cette équipe de Strasbourg que je trouve quand même un petit peu fantasque par moment, mais je la trouve quand même très très emmerdante, pas facile à battre, et cet entraîneur qui est pour le moment pas connu,
Rosenior.
Bon, ben il ressemble plutôt à un proviseur qu'à un entraîneur, mais plaisanterie mise à part, je le trouve très 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 compétent.
C'est proviseur, t'es un peu fort, je dirais plutôt professeur, moi.
Le prof cool avec le sous de la capuche, quoi.
Ouais, exactement.
Proviseur, je me l'imagine assez sévère, tu vois, pas tellement sympathique, alors que lui, ça se trouve, c'est le plus brave des garçons. Mais
assez sympa, lui, bon, Seigneur. Attends, rapidement, les amis, Brest-Nice, parce que c'est chaud là.
Ouais, une frappe de Jordan Amavi. Intérieur du pied droit, ça manquait de puissance, mais malgré tout ça partait. Petit filet, c'est sorti par Marcin Bulka, le centre à suivre des Brestois avec Lesmelou qui est tout près d'avoir un contre favorable dans la surface. Ils sont un petit peu asphyxiés. Attention, le contre favorable il sera finalement pour les Niçois. Il va bien s'emmener Mohamed Ali Chaud, et le retour finalement de Jordan Amavi qui avait traversé tout le terrain. C'était Bombito qui était parti qui était parti de son poste de défenseur central pour finir en position d'avant-centre.
Ah, lui, il est impressionnant.
Athlétiquement, c'est vrai que c'est quelque chose, hein, Bombito. Oui. Et là, ils ont du boulot. Toute la défense, on a vu une petite soufflante de la part de Dante pour son équipe, l'air de dire. On se remet un petit peu dedans parce que là, c'est vrai qu'ils sont bousculés depuis le retour des vestiaires. Toujours 1-0 malgré tout pour Nice. La 56e, on va suivre rapidement encore Lesmelou. Lesmelou, il est à 35 mètres. Il va ouvrir côté gauche pour Jordan Amavi. Les Brestois sont bien meilleurs, notamment Amavi et Lala, quand ils n'ont pas de duel à disputer. Offensivement, ça va. Ils ont beaucoup souffert. En revanche, dans leur tâche défensive en première période, on tourne autour de la surface avec Lesmelou. Le contrôle semelle, il va se retourner la passe pied gauche. Madi Camara, une touche de balle, c'est mal fait. Il est en dedans aussi, Madi Camara, tout comme Hugo Magnetti. La 56e, 1-0 pour Nice. Le buteur, c'est Guessant, la 43e.
Evan Guessant, effectivement, son 6e but de la saison. Tiens, on repart de Saint-Etienne-Strasbourg. On était avec Valentin Jamin et Edouard G pour les enjeux de cette rencontre. Mais tout de suite, on parie.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et Yoann Guillet de retour avec nous en studio. Coach, je te demandais si Liam Rossignol était sympa. Quelle est la cote? Il est sympa ou pas?
La cote de Liam Rossignol sympa, 350.
350? Moi, j'aurais plutôt un 2.
En tout cas, sincèrement, je le trouve très bon.
Ah ben voilà. Donc, oui. La cote est redescendue.
La cote est redescendue.
Non, plus sérieusement, les cotes sur cette rencontre.
Eh bien, Strasbourg est à 1,94. Jean-Paul Guichard, le nul est à 3,75. Saint-Etienne est à 3,65. Messieurs, c'est difficile d'imaginer autre chose qu'un succès strasbourgeois, malheureusement.
Malheureusement, pourquoi je dis ça? On ne sait pas.
Pour les Verts,
évidemment. Strasbourg qui, du coup, s'impose à 94, ça me plaît bien. Strasbourg avec les deux équipes qui marquent, quand même, c'est une cote qui me plaît beaucoup également, c'est 3,25. Et sinon, sans donner de vainqueur, il y a une double cote qui me plaît bien. C'est David Tachvili et Nanasi décisif. C'est 4,50.
Ouais, coach. Moi, je te suis pour Nanasi décisif.
décisive, c'est 2.
Et Strasbourg qui perd pas avec les deux équipes qui marquent.
Strasbourg qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent, c'est un 90.
Nanasi qui aurait pu être un joueur stéphanois.
Évidemment, mais rappelle, remue le couteau, je t'en prie.
À Strasbourg. Merci beaucoup, heureusement ou malheureusement, UMB.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
On remercie Yoann Guillet, on remercie Valentin Jamin, Edouard G. Messieurs, on vous retrouve tout à l'heure pour le coup d'envoi de cette rencontre à Geoffroy Guichard. On retourne, coach, je te repose à Francis Leblay. Le stade brestois face à Nice. Xavier Grimaud, les Niçois mènent toujours 1-0, mais ça commence à être un spectacle.
Mais ça doit être le terrain, tu vois, qui attire offensivement.
Ouais, tu veux dire quoi, c'est le but gauche là quand on est dans la tribune principale qui attire les buts.
Ben ouais, peut-être.
J'ai l'impression de voir les Brestois comme on a pu voir Nice en première mi-temps.
Exactement.
L'analyse quand même. Parce qu'on attaque. Ouais, exactement. Mais c'est quoi, on attaque du côté de la mer. C'est pour ça, je pense, la vue est plus belle.
Les coups, les équipes. Le vent, non,
le vent vient de la mer en général. Il n'y a pas des terres, donc ça doit pas aider. Mais en tout cas, il y a eu un retourné acrobatique. C'était difficile. La part de Mama Baldé, c'est passé à côté des buts de Boulka. Boulka qui excelle pas dans son jeu au pied, avec des relances manquées. Mais elle est à sens unique pour l'instant. Deuxième période, ça ne doit pas plaire à Francaise. Il y a un manque de maîtrise alors qu'ils étaient clairement au-dessus, les Niçois, sur la première mi-temps, et des Brestois qui retrouvent enfin peut-être leur vrai visage. Toujours 1-0, ils vont peut-être regretter de ne pas avoir fait le break aussi, les Niçois. Le renversement de jeu, il s'est manqué Ali Abdi, ça a profité à Del Castillo, le centre du droit, et il y a Jorc qui traînait, mais ce sera repoussé par la défense niçoise. C'était avec un renversement de jeu de Pierre Lespelou qui va insister à nouveau à côté droit avec à nouveau Romain Del Castillo. Il y a peut-être le dédoublement de Kenny Lala. On va rejouer finalement avec Hugo Magnetti, et tous les Niçois sont quasiment bloc bas dans leurs 35 derniers mètres. Ludovic Ajorc retenu, juste ce qu'il faut a priori, par Bambito. Ça va être la petite main dans le dos juste au moment du départ de la course pour le mettre sur les genoux. Monsieur Turpin ne dit rien, la faute elle est on va dire légère, intelligente, et elle empêche Ajorc de jouer ce ballon. On va atteindre l'heure de jeu, 1-0, ballon à nouveau récupéré à 35 mètres des buts de Boulka, à nouveau par Romain Del Castillo. Il récupère les ballons facilement, Del Castillo qui va donner côté gauche, Jordan Amavi. Ouh, la petite patte derrière la jambe d'appui. Pardonnez Amavi, c'est pas bien donné de la part de Mama Baldé. Et Boulka qui peut récupérer le ballon. Faut se remobiliser les côtés de Nice, parce qu'on est en train de laisser Brest prendre confiance. Et Nice soit toujours devant à l'heure de jeu. Ballon récupéré encore par Magnetti. On passe pas la ligne des 40 mètres du côté de Nice là, depuis maintenant 5-10 minutes.
Avec Grimaud.
Non, ça va, j'ai encore un peu le souffle. Kenny Lala pour Madi Camara dans la surface, c'est un petit peu long. Et Boulka qui va se coucher au sol et qui va prendre son temps pour dégager. L'heure de jeu, la voilà. 1-0 pour Nice, le buteur Guessant à la 42e.
C'est dingue, ça nous rappelle presque Lille-Lyon en début de journée, où on avait eu une mi-temps pour une équipe et une autre mi-temps pour l'autre, très rapidement.
C'est souvent ça.
Ouais. Le temps de score, Guingamp-Grenoble, c'est de la Ligue 2, Morgane Morey.
18e minute, 1-0 pour l'en avant Guingamp face à Grenoble.
Et je vous rappelle que François Pinet prendra les commandes de l'After Live à partir de 21h, réservé aux places aussi pour l'After. Ils sont autour de Damien Perkis et Kevin Diaz au 32-16. Réservez votre place pour bien revenir cette journée 2. Ligue 1, PSG s'est imposé face à Lens 1-0, Strasbourg-Saint-Etienne c'est ce soir, et Brest perd 1-0 pour l'instant face à Nice. À tout de suite.
RMC Intégral Foot,
Georges Quirino
avec Coach Courbis en studio. On suit évidemment la journée de Ligue 1 et de Ligue 2. Je vous rappelle que Hugo Humbert en tennis, tout de même, c'est l'événement de cette journée, l'événement de demain certainement, est en finale. Hugo Humbert du Masters 1000 de Paris-Bercy, il affrontera Alexander Zverev. Ce sera à 15h. Grand frisson attendu donc pour la dernière à Bercy. On retourne sur le foot avec Coach. On suit Brest face à Nice, les Niçois qui mènent toujours 1-0 dans cette deuxième mi-temps, mais il pousse les Brestois, Xavier Grimaud.
Exactement, 1-0, le buteur Guessant à la 42e, son 6e but de la saison en Ligue 1. Mais les Niçois n'ont rien eu en deuxième période, ils sont uniquement en mode défense là, et voilà, qui vont presser un petit peu plus haut. Il y a eu des grosses occasions pour les Brestois, notamment un poteau sur une frappe de Lesmelou qui a touché le poteau de Marcin Boulka. Lesmelou justement qui a le ballon, on est dans la moitié de terrain brestois, dans le jeu avec Madi Camara. Il y a Del Castillo qui la demande à droite, il est un petit peu seul, il a tardé à lui donner. Madi Camara Camara, on va insister avec Les Melou. Mais là enfin, il y a un pressing un peu plus haut, Roland. Il y a l'entrée notamment de Gaëtan Laborde à la place de Jérémy Boga. Laborde qui va peut-être être plus intéressant dans son volume de course et un attaquant qui aime défendre, on va dire. Roland, c'est peut-être ça aussi le choix de Francaise.
Oui, et puis bon, c'est un garçon qui est quand même très intéressant, qui relève de blessures. Donc il est utilisé avec beaucoup de prudence et je trouve que c'est très bien de la part de Hez.
Le problème, c'est qu'il y a tellement de joueurs qui reviennent de blessures à risque, oui, qu'il faut être prudent avec tout le monde. Oui. Pratiquement, les Niçois mènent toujours à zéro. On revient dans quelques instants. Xavier, on a passé l'heure de jeu. Donc, Brest mené par les Niçois. On reste en Bretagne. Guingamp, Grenoble, c'est de la Ligue 2, Morgan Maury.
Toujours à zéro pour les Guingampais. Réalisation de Brighton Labo après la première minute de jeu. Ça y est, Grenoble est entré enfin dans sa partie. Arrive à se retrouver dans la surface de réparation de Basilio, le gardien Guingampé, 23e minute. Ballon pour les Guingampé dans la moitié de terrain grenobloise. Picard sur le côté gauche. Il a du champ. Il va peut-être pouvoir centrer. Il préfère aller défier. Il a deux joueurs face à lui. Il va sur le côté gauche. Il arrive à transmettre sa balle à son partenaire, le numéro 13, Emilia, le meilleur buteur du club. Mais sa frappe passe à côté de la cage. 23e minute. 1 pour Guingamp, 0 pour Grenoble.
C'est la 12e journée de Ligue 2 avec Morgan Maury. Tiens, détour également par la Bundesliga. Il y a un gros match en ce moment entre le Borussia Dortmund et le RB Leipzig. C'est Dortmund qui mène de buts à 1 face à Leipzig et on est dans le temps additionnel de la deuxième période. Avant de revenir au football dans quelques instants, on va parler de Formule 1 parce que si vous êtes avec nous depuis 19h, vous avez promis... Oh là là, vous avez promis... C'est quoi, c'est les sifflets brésiliens, ça, apparemment. Ah, bah oui, voilà, là, on reconnaît c'est quoi, la bossa nova un petit peu. Oh, Brasil. Le Grand Prix d'Interlagos. Bah, on attend les qualifications depuis 19h. Jean-Luc Roy, qui est avec nous. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Luc? On va l'avoir, notre séance de qualification ou pas, Interlagos?
Eh bah, écoute, je regarde ma boule de cristal et je ne vois rien car il pleut. Non, bah, écoute, là, c'est repoussé pour le moment à 20h45. Alors, je te signale à tout hasard que la nuit tombe à 18h21 locale. Donc ça veut dire que tel que ça prend comme tournure, il va falloir monter des phares sur les Formule 1, ce qui n'est pas forcément prévu. Ou des essuie-glaces. Non, blague à part, je ne sais pas si la qualif va avoir lieu ce soir.
Ah oui.
Parce qu'effectivement, là, bah oui, la visibilité est vraiment en train de tomber. Là, c'est très très net. Alors, beaucoup de pilotes veulent y aller. Il y a pas mal de déclarations qui disent qu'il n'y a pas de problème, notamment Oliver Berman, enfin tous les jeunes qui ont hâte d'en découdre. Et puis comme ils le disent, on a vu plein d'images dans le passé de pilotes de Formule 1 qui se battaient sous la pluie et tu sais que ça donne lieu effectivement à des numéros d'équilibriste absolument formidables. Alors moi je veux bien qu'on prenne des précautions mais là ça devient un peu grotesque, surtout ces reports successifs.
Ouais.
Écoute, je peux pas te dire, j'y crois de moins en moins très honnêtement, et comme demain il est prévu qu'il pleuve aussi, alors dans le pire des cas, parce que ce serait vraiment le pire, eh bien la grille de départ serait établie non pas à partir de la grille de la sprint race, tu sais, avec les deux McLaren, mais à partir, tiens-toi bien, des temps réalisés dans la première séance d'essais libres. Alors je les ai sous les yeux.
D'essais libres.
Oui, c'est comme ça, c'est le règlement.
Grotesque.
Tu sais, règle. Ben voilà, je
parce que les essais libres, on
ne
les fait même pas forcément à fond en plus.
Mais complètement. Les règlements, c'est règlement. Hein. Tu sais, à chaque fois qu'on peut s'enduire avec une couche de goudron et de plumes, du côté de la FIA, on le fait. Voilà, donc on a réussi. Alors ce serait Lando Norris. Bon, c'est pas honteux qui décrocherait la pole. Je te parle toujours des temps de la première séance d'essais libres. Hein. Avec George Russell à ses côtés, alors, ce serait surprenant. Mais tiens-toi bien, Oliver Berman, le jeune britannique, justement, et ouais, qui est à la place de Magnussen dans la Haas, eh bien, se retrouverait sur la deuxième ligne avec Oscar Piastri à ses côtés. Et puis ensuite, troisième ligne, on aurait Alexander Albon et Charles Leclerc.
T'as toujours pas dit Verstappen?
Ah bah attends, je te le garde pour la fin. Parce que justement, Verstappen, tiens-toi bien, avait signé le 15e temps. Lewis Hamilton avait signé le 16e temps et Sergio Pérez le 19e. Alors tu rajoutes à tout ça, parce que c'est ce que je voulais te dire aussi, c'est que de toute manière la pole elle sera pas pour Verstappen parce qu'il a déjà ses 5 places de pénalité pour avoir changé des éléments mécaniques.
Oh là là,
ça on le savait. Oui, donc la FIA n'a pas à se creuser la tête pour savoir comment le pénaliser pour demain, c'est déjà fait, hein. Bon, ils vont peut-être trouver autre chose d'ici là, mais là, il a déjà les 5 places, donc même s'il faisait la pole, blague à part, bah, il ne partirait qu'au 5e rang. Donc voilà, Alors écoute, on va attendre encore un petit peu parce que ça va changer. Hein.
Et si la pluie d'Interlagos, c'était le tournant de la saison pour relancer toute la saison de Formule 1. Hein, puisque je vous rappelle, avec la victoire de Lando Norris tout à l'heure sur la course sprint, alors il y a une petite consigne d'équipe, tu nous l'as dit tout à l'heure, Oscar Piastri il a pas accéléré à fond, on va dire, sur les deux derniers tours. Il y a plus que 44 points entre Norris, deuxième, et Verstappen, premier. Bon, Jean-Luc, on a entendu les sifflets brésiliens. Alors, on prévient les auditeurs, hein, c'est Daniel Torres, notre réalisateur qui aime beaucoup la samba. Jean-Luc Roy n'est pas au milieu de danseurs de samba à São Paulo.
Non, surtout que les pauvres, ils sont trempés.
Voilà. C'est pas vraiment la situation. Bon, bah écoute.
Ils gardent le moral, mais ils sont trempés.
Jean-Luc, tu reviens hein, pour nous dire si on va avoir une séance de qualif ou pas, ou si on va reprendre les essais libres 1 ou je sais pas, ou les qualifs d'il y a 3 ans à Interlagos ou
si c'est passé
il y a 10 ans, je sais pas. Mais c'est dingue parce que ça peut avoir quand même une incidence terrible sur le championnat du monde. Merci Jean-Luc,
à tout de suite.
Bon, il pleut pas à Brest, il pleut pas à Guingamp, ce sont les deux pelouses bretonnes où on est aujourd'hui. Xavier Grimaud, Brest, Nice, on est entré dans les 20 dernières minutes et il va falloir qu'ils se dépêchent les Brestois parce qu'ils sont toujours menés au score.
Ouais, exactement. Oui. Et l'étreinte est un peu moins forte de la part des Brestois. La 71e, toujours 1-0 pour les Niçois. Le but de Guessant en fin de première période. Et il y a eu des changements du côté d'Éric Roy. Attention, on va suivre cette perte de balle de Camori Doumbia. Il y aura Lespelou qui va pouvoir récupérer. Alors, une nouvelle passe manquée dans la surface pour Gaëtan Laborde. Attention, c'est dangereux. Alors il est excentré hein, près du poteau de corner. Il va pouvoir donner à Ali Abdi le centre avec Guessant. Une touche qui veut la remettre à Laborde. Et ce sera récupéré par les Brestois. Ils se sont fait un petit peu peur. Les changements, c'est Magnetti remplacé par Camori Doumbia et Mama Baldé remplacé par Ibrahim Salah, avec Salah touché justement au poste d'avant-centre. Et les sifflets, c'est parce que M. Turpin siffle une faute d'El Castillo ou d'Ajorc sur un Niçois qui va casser l'action. Toujours 1-0 pour Nice qui ferait une très très belle opération hein, puisqu'il remonterait à la 5e place du classement s'il confirmait cette victoire. Et tu demandais s'il pleuvait à Brest. Non, il a fait beau toute la journée.
Bon, j'ai rien dit, non, j'ai dit
du
pleut
côté
pas.
De Brest.
Non,
il me semble que c'était des batucadas qu'on entendait hein, les percussions brésiliennes et non pas de la bossa nova.
C'était plutôt de la samba, oui, effectivement. Ouais. Non, mais je vois qu'ici, de toute façon, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est expected van 1% à chaque fois. Coach, Nice qui mène toujours 1-0. Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression que les Brestois, ils ont laissé passer l'occasion
ils sont quand même un petit peu moins bons que dans les 20-25 premières minutes. Mais bon, c'est pas fini encore. On va assister à quand même 2-3 occasions pour l'un ou pour l'autre.
Tiens, un résultat de Bundesliga, c'est terminé à l'instant à Dortmund. Dortmund qui était un petit peu malade hein, dernièrement, qui s'est imposé 2-1 face au RB Leipzig avec un but notamment de Guirassy qui a donné la victoire aux joueurs de.
Pas facile de battre Leipzig.
Non. Du coup, le Bayern qui s'est imposé aujourd'hui 3-0 face à l'Union Berlin avec un doublé de Kane, un but de Kingsley Coman. Et ben, ça permet justement au Bayern d'avoir désormais 3 points d'avance sur Leipzig deuxième. Tiens, il y a eu un autre résultat chez TMB, la Bundesliga. L'Eintracht Francfort a battu Bochum 7-2. Ah, quand il y a des 7-2 comme ça. Doublé de qui, tu sais, coach, à Francfort? Hugo Ekitike, qui a marqué un doublé. Donc, effectivement,
je ne suis pas surpris,
c'est vrai que ça marche plutôt pas mal pour lui du côté de l'Allemagne. Tiens, avant de retourner à Brest, un détour par Guingamp, Morgan Maury. C'est de la Ligue 2, première période entre Guingamp et Grenoble.
Les Guingampais tiennent toujours leur avantage d'un but de Brighton Labo à la deuxième minute de cette partie. Grenoble est de plus en plus dangereux. Lenny Joseph, il y a quelques instants, dans la surface de réparation, pratiquement au 6 mètres, il a ouvert son pied, il a croisé un tout petit peu trop ça, frôler le poteau, et une autre situation 2 minutes plus tard avec un de ses partenaires qui a fait un râteau dans la surface de réparation mais qui a été bloqué par Lemoynier, le défenseur guingampé, qui s'est un peu fait mal sur cette action. 31e minute, ballon pour les Grenoblois sur la gauche dans la moitié de terrain guingampaise. On préfère remettre le ballon un tout petit peu derrière pour respirer. Long ballon vers l'avant, c'est bien transmis. Lemoynier encore une fois dans ses 6 mètres alors que le ballon allait chercher pourquoi pas un pied grenoblois qui vient défendre et donner un corner aux Grenoblois. 30 32e minute, 1-0 pour Guingamp face à Grenoble dans cette 12e journée de Ligue 2.
On revient te voir dans quelques instants. On parlait de l'Allemagne il y a quelques secondes, les résultats en Angleterre, parce qu'il y a eu des résultats assez importants avec la défaite d'Arsenal 1-0 sur la pelouse de Newcastle. La première défaite cette saison en première ligue de Manchester City, c'était à Bournemouth. Défaite 2-1. Liverpool s'est imposé 2-1 face à Brighton, but de Gakpo et Salah. Nottingham Forest s'impose face à West Ham 3-0. Et du coup, la défaite de City permet à Liverpool d'être désormais seul en tête de la
AFL. Oh, le ballon dégagé sur Salah, le décalage, point de pénalty qui va mettre cette frappe au-dessus.
Oh, le raté brestois.
Oh, quelle énorme occasion avec ce centre de Kenny Lala. Superbe extérieur du pied de Kamori Doumbia pour lancer Lala, le centre au deuxième poteau qui est repris par un brestois et dégagé sur sa ligne par Marcin Bulka et derrière Camara au-dessus. Hein.
Il est heureux, Bulka, là.
Clairement.
Ah, bah oui.
Ouais, clairement, il est heureux sur cette frappe. Il arrive à la dégager derrière Madi Camara qui doit peut-être faire mieux. Il est sur son mauvais pied et ça passe au-dessus. Il va y avoir un triple changement pour l'OGC Nice qui mène toujours 1-0. Mais c'est certain que Francaise ne sera pas satisfait de la gestion de cette deuxième période. Alors, qui va rentrer? Il y a Tanguy Ndombele qui va entrer en jeu pour son retour.
Ouais. Ndachimiye est en train de sortir. Ouais. Donc, c'est du poste pour poste, a priori.
Exactement. Ndombele pour Ndachimiye, Sofiane Diop et Antoine Mendy qui vont entrer en jeu aussi dans un instant. Toujours 1-0 pour le GC Nice, un petit peu en souffrance quand même les Niçois. Le buteur Guessant à la 42e, c'est Jonathan Klaus, assez discret, qui va être remplacé donc par Antoine Mendy et Mohamed Ali Chaud pour Sofiane Diop. Voilà les trois changements de Franck Hez. Il restera éventuellement une session de changement.
Il ne va pas y avoir de changement stratégique là, hein. Du coup, pour les hommes de Franck Hez, on est sur du poste pour poste.
Oui, mais tu te partages le boulot, ça fait que le gars qui rentre est quand même frais.
Et surtout, je rappelle que jeudi, Nice reçoit Twente en Ligue Europa. C'est aussi une semaine à trois matchs pour les Niçois. Donc Francaise, il doit aussi
gérer l'obligation de gagner, hein, parce que pour l'instant, c'est un nul et deux défaites. Leur parcours est manqué en Coupe d'Europe. Contrairement à celui des Brestois, évidemment, qui sera sur la pelouse du Sparta Prague mercredi avec 7 points sur 9 et la possibilité, peut-être, hein, pourquoi pas, d'aller chercher quelque chose du côté de la République tchèque. 1-0, il reste 13 minutes encore à jouer. Georges, 1-0 pour Nice.
Allez, bah pour vivre pleinement le dernier quart d'heure avec toi, on va se quitter quelques instants, vraiment quelques secondes, et on se retrouve avec Coach Corbis pour la fin de cette rencontre.
MC Intégral Foot.
Georges Quirino.
Avec Coach Courbis, on suit notamment Brest-Nice, les Niçois qui mènent toujours 1-0. Il reste un petit peu plus de 10 minutes. Je vous rappelle rapidement que Hugo Humbert s'est qualifié pour la finale du Masters 1002 Paris-Bercy. Il sera opposé demain à Alexander Zverev à 15h. J'insiste là-dessus, hein, coach, parce que c'est quand même la première fois qu'on aura un Français en finale à Bercy depuis 2011. C'était Joe Wilfried Tsonga qui avait perdu face à Roger Federer. Joe Wilfried Tsonga, le dernier vainqueur aussi à Bercy. C'était en 2008. Ouais, celui-là, on ne va pas le rater de match. Hein. Coach, demain, à Bercy, Hugo Humbert qui a battu Kachanov en 3-7 tout à l'heure. On file tout de suite à Francis Leblay, à Xavier Grimaud, les 10 dernières minutes entre Brest et Nice. Nice mène toujours 1-0. Il y a eu des changements côté Brestois.
Ouais, on y entre à l'instant dans les 10 dernières minutes. 1-0 pour Nice. Le buteur Guessant, 42e. Et Jonas Martin et Romain Fèvre sont entrés en jeu pour cette fin de match, remplaçant Madi Camara et Romain Del Castillo. Voilà deux nouvelles forces pour les Brestois, notamment force offensive avec Romain Fèvre qui avait été titulaire du côté de Reims. Il s'installe pas, hein, comme titulaire dans cette équipe, mais à Reims il avait fait un très bon match en tant que titulaire, justement avec un but et une passe décisive, notamment avec un pénalty et une passe décisive. Le ballon dans la défense brestoise avec Julien Le Cardinal. Ils auront passé une deuxième mi-temps bien plus tranquille, hein, les Brestois en défense sur cette deuxième période. Ballon malgré tout récupéré par Bombito qui va chercher Guessant. Le tacle de Koulibaly, c'est récupéré par Brest. Oui, Roland.
Non.
Ah, je croyais que je t'avais coupé. C'est récupéré par les Brestois. Ibrahim Salah avec à l'extérieur du pied, un joueur qui la laisse passer pour Romain Fèvre, l'un de ses premiers ballons. Kamori Doumbia qui la redonne à droite vers Kenny Lala. On est à 35-40 mètres des buts de Boulka. On va chercher le deuxième poteau vers Ibrahim Salah. C'est trop profond, ce serait une sortie de but. Et Marcin Boulka qui prend son temps à chaque fois, hein, pour dégager. Et je pense qu'il va prendre son carton jaune avant la fin de la rencontre. C'est quasiment certain parce qu'il gratte vraiment beaucoup de temps. Tout comme Dante tout à l'heure qui a pris le seul jaune du match pour l'instant pour un petit coup de filou dont il a l'habitude, à savoir garder le ballon et le balancer bien loin de l'endroit où on est censé faire la touche, ce qui permet de gagner, je ne sais pas combien, 10 secondes, mais bon, ça compte, mais ça va donner envie logiquement à M. Turpin de lui mettre un jaune. La 82e, 1-0 pour Nice dans cette rencontre.
Oui, il gère là, les Niçois, hein, coach, sur sa fin de match.
Ouais, mais bon, il ne suffit pas de grand chose non plus. Hein. Une belle occasion bien concentrée de Brest, c'est pas impossible, parce que les deux joueurs qui viennent de rentrer, ce sont quand même des joueurs capables d'apporter quelque chose dans les 25 derniers mètres.
Je vous rappelle que dans quelques minutes, à 21h, vous aurez le coup d'envoi de la rencontre entre Saint-Etienne et Strasbourg. Geoffroy Guichard, Edouard G, Valentin Jamin au commentaire. C'est François Pinet qui prendra les commandes de l'After Live et de l'After ce soir, avec Damien Perkis et Kevin Diaz autour de lui. On a de la Ligue 2 également à Roudourou. Guingamp face à Grenoble. On se rapproche de la fin de la première période, Morgan Maury.
Le ballon pour Kéroudan. Et les Grenoblois, ils tentent la frappe enroulée à l'entrée de la surface de réparation. Basilio, en deux temps, se saisit de sa balle. Le GF 38 est toujours mené 1-0 sur la pelouse des garçons de Sylvain Ripoll. 1-0 pour l'en avant Guingamp face à Grenoble, 40e minute.
Et il y aura également tout à l'heure à 21h05 du rugby du top 14, la 9e journée, La Rochelle qui reçoit le Stade français. Tiens, on va retourner à Bercy avant de se concentrer sur les dernières minutes de Brest-Nice. Les Niçois mènent toujours 1-0. Eric Salio est de retour. Eric, Hugo Humbert est en finale du Masters 1000 face à Zverev demain. Tu l'as vu, je crois ? Il est comment ?
Oui, on a pas vu que lui. On a vu Jérémy Chardy, on a vu aussi Guy Forget qui était présent dans les tribunes. Aussi la petite copine de Hugo Humbert, Tessa Andrien Chaffetrimo, qui était évidemment aux anges. Et puis Hugo est venu assez rapidement en conférence de presse parce que il fallait faire vite. Parce que derrière, il y aura beaucoup de récupération.
Il a joué longtemps.
Ouais, il a fini très entamé. Je crois qu'on a sa première réaction sur la manière dont il a vécu la fin de match. Et puis après, je vous raconterai une petite anecdote qu'on n'a pas vue en direct sur RMC.
On s'en est tiré une bonne pendant quasiment 3 heures. Il y a eu beaucoup d'intensité. Il s'est passé plein de choses. Il y avait 15 000 personnes qui étaient là. Donc ouais, moi aussi, j'étais dans le rouge au début du troisième. Et puis quand j'ai vu qu'il commençait à être un peu plus... dans le dur physiquement que moi, qui commençait à cramper, ça m'a donné de la force. Et j'ai continué, j'ai appuyé. Et puis voilà, au final, je m'en suis sorti.
2h40, hein, il a fallu pour Hugo Humbert pour s'imposer en 3-7 face à Kachanov. Et Eric Salio, le public d'RMC ne tient plus. Tu nous as vendu une anecdote, laquelle ?
Non, en fait, la poignée de main était assez fraîche, puisqu'on a revu les vidéos. En fait, Kachanov lui dit... No class. En fait, il a pas aimé. Il estimait que Hugo Humbert a manqué de respect. Alors pourquoi? La bête était blessée, effectivement.
Et lui,
c'est vrai qu'Hugo, pendant les 10 dernières minutes de la partie, il n'a cessé de s'encourager, et Kachanov a trouvé ça un petit peu déplacé.
Bon.
Moi, je trouve que ça fait partie du jeu, parce que tu peux te laisser piéger par la blessure du mec d'en face, par les crampes. Parce que vous l'avez entendu, il évoque des crampes au quadriceps, le russe. Et le russe n'a pas aimé, donc que Hugo soit peut-être trop exubérant. Franchement, c'est pas évident à gérer ces fins de match. Alors, moi, je trouve que bon, peut-être qu'il est mauvais perdant. Bah,
on aurait pu
lui reprocher
le contraire, en plus, à Hugo Humbert, s'il n'était pas à fond, justement.
Bah oui, voilà, c'est le genre de truc, ça peut t'échapper.
Mais
parce
coach,
que
franchement,
il fallait enfoncer la bête. Quand
la prochaine
bête est blessée,
fois, on dira à son adversaire de faire la gueule. Quand
Non, mais voilà, c'est les petites coulisses du circuit. Mais maintenant, bon, voilà, il faut qu'il récupère, parce que il nous l'a dit en conférence de presse, il n'était pas au mieux aujourd'hui, il n'a pas bien servi. Il a fait beaucoup de fautes directes, j'ai pas le total en tête, mais il a dû dépasser les 40 fautes directes. Il va falloir que demain il soit à 100% pour jouer Zverev, parce que je vous l'ai dit, hein, le match de l'an passé avait duré 3h31, il avait perdu vraiment 7-6 au 3ème, 7.5, ça s'était joué sur des détails. Et puis c'est vrai que Zverev, lui, il a eu une partie assez facile aujourd'hui, donc il aura l'avantage physique, mais bon. Demain, il y aura 15 000 personnes. Et Zverev, tout à l'heure, au micro, il faisait le beau. Il disait, ah, j'adore Paris. Je crois que vous m'aimez de plus en plus après ma petite blessure quand je m'étais fait la cheville contre Nadal il y a 2 ans. Ouais, mais demain, ça ne sera pas comme ça, Sacha. Il faut qu'il soit prêt.
Dernière question. Chaudron, tu penses, demain à Bercy ? C'était comment
Chaudron énorme.
La ça dernière à Bercy, on rappelle. Hein.
Bah, évidemment, en plus. Donc, tu vois, après, ils vont tout casser la salle, je pense.
Attention,
non, mais ça va être énorme. Ça va être énorme. Ça va être énorme parce que s'il inscrit son nom palmarès pour la dernière ici à Bercy, ça va être fabuleux.
Ah non, mais là, c'est toi aussi, il faut que tu sois 100%. Hein. Demain, Alexander Zverev, qui a déjà fait finale hein, à Bercy en 2020, il avait perdu face à, oui. À Medvedev.
Tu te souviens que c'était à huis clos.
Ah oui.
C'était en plein Covid.
Ouais, il va pas avoir ses repères. Il va pas se repasser la vidéo, je pense, pour voir comment aborder mentalement ce match. Bon, repose-toi. T'as du travail demain. T'as du pain sur la planche. Oui, un Eric Sayo qui peut crier pour un titre français majeur. Je pense qu'il faut remonter la Coupe Davis hein, pour voir un truc comme ça. ça date ça non? Ouais, c'est quelle année ça serait?
Mais t'as raison, c'était ouais. 2017. Ouais.
Et voilà.
Donc, t'as raison, je me suis pas exprimé depuis 2017, je trouve.
Hein. Je me suis pas exprimé, dit-il. Bon, parfait, Eric. Si tu as une nouvelle anecdote absolument incroyable à nous vendre, évidemment, n'hésite pas à venir jusqu'au bout de la nuit. À demain, Eric, pour la finale à 15h entre Hugo Humbert et Alexander Zverev. Ça va être un truc important. C'est ce que vous devez noter là dans vos rappels pour ne pas rater demain sur RMC en direct. Vous l'aurez avec Eric Salio au commentaire. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire à Brest pour remonter le but de retard face
avec
à Nice. Xavier Grimaud.
Brestois, laisse Melou pour Kenny Lala. Pour Romain Feff, pardon, le centre qui va être détourné en corner. La 87e, la 88e plus exactement. 1-0 pour l'OGC Nice. Le buteur c'est Guessant. 43e, les Brestois qui ont pas mal de situations malgré tout. En deuxième période, dernier changement brestois avec Jordan Amavi qui commence à avoir d'écran, prend place et passe pour poste par Massadio Idara, puisque les Brestois vont finir avec plus de frappes, plus de tirs dans cette rencontre que les Niçois. 14 tirs pour Brest, 12 pour Nice, mais 4 grosses occasions comptabilisées pour Nice contre une seule pour Brest. Hein, et c'est très certainement le poteau de Pierre Lespelou. Donc le corner. Allez, corner, Romain Fèvre, tiré deuxième poteau, c'est plongeant, la remise de la tête, la claquette de Boulka. C'est pas claqué en corner, c'est sorti. Le ballon qui traîne dans la surface avec Ibrahim Salah, c'est dégagé par Rosario. Kenny Lala qui va se battre avec Rosario pour récupérer le ballon. Les Brestois qui gagnent et Ibrahim Salah qui va perdre le ballon. Qu'est-ce qu'il est frustrant ce joueur pour l'avoir expérimenté depuis Rennes. Il a beaucoup de mal quand même à tenir le ballon. Alors il a des qualités athlétiques, hein, des qualités de frappe, mais là il n'a pas fait le bon choix. Heureusement pour les Brestois, ils vont avoir le contre-favorable, ils vont avoir un coup franc, sorte de mini corner sur la gauche des buts. Et
si c'est pas leur dernière chance, c'est au mieux leur avant-dernière chance.
Et il y a encore un peu de temps quand même. Il y aura au moins 3 ou 4 minutes de temps additionnel, je pense.
Et Martine Boulka, on l'a vu,
avant-dernière chance.
C'était fait pour Martine Boulka. Et allez, le coup franc à suivre pour les Brestois. Nice mène 1-0. Xavier Grimaud, il reste 8 minutes dans le temps réglementaire. Évidemment, Francis Leblay va s'enflammer.
Ouais, évidemment, les supporters brestois l'espèrent. En tout cas, c'est Camori Doumbia qui s'applique pour placer ce ballon pour ce coup franc. Donc, position de mini corner sur la gauche en regardant les buts de Marcin Boulka. Il fait une bonne entrée plutôt. Camori Doumbia avec le coup franc, il s'élance. Deuxième poteau, dégagé de la tête par Guessant qui est revenu défendre. Qui aura le deuxième ballon? Ce sont les Brestois avec la tête d'Aïdara. Le ballon récupéré par Doumbia dans la même position que le coup franc quasiment. Ah, il avait voulu remettre derrière Aïdara. Il y a la bonne défense.
Ah, c'est mal joué.
De Diop. Il y a Gaëtan Laborde qui tente le grand pont. On s'est perdu. Pour les Niçois, on est maintenant entré de la surface. La frappe en roulette Doumbia qui va passer juste au-dessus. Juste au-dessus et sans doute aussi un peu à côté des buts de Marcin Boulka.
Voilà rappelé. La bonne dernière, donc maintenant il va y avoir la dernière.
Coach, ils font n'importe quoi les Niçois là quand même.
Mais là, il manque pas grand-chose. Il est bon ce joueur.
C'est Camori Doumbia, ouais, on l'a vu là, Xavier, il a frappé au-dessus et derrière, il en a souri. Tiens, juste avant de suivre les dernières minutes avec toi, alors qu'on annonce 4 minutes d'additionnel à Francis Leblay, rapidement, c'est la mi-temps entre Guingamp et Grenoble, c'est de la Ligue 2, Morgane Maury.
1-0 pour les Guingampais face à Grenoble, réalisation de Brighton Labo après une minute de jeu.
La deuxième période dans quelques instants, dans l'after live avec François Pinet, il y aura également le coup d'envoi de Saint-Etienne, Strasbourg à 21h, la fin de la rencontre entre Brest et Nice mène 1-0 et le buteur qui sort en temps additionnel, Xavier Grimaud.
Ouais, Evan Guessant, buteur pour la troisième rencontre de Ligue 1 de suite, son sixième but de la saison. Lui, le joueur le plus utilisé par Francaise depuis le début de la saison, mais il a encore été décisif, Evan Guessant, et il est remplacé par Youssoufa Moukoko, l'allemand, pour les dernières minutes de jeu, et Marcin Boulka qui va pouvoir dégager. Déjà Francaise, intelligemment, il a fait son dernier changement pendant le temps additionnel. Ça gratte un petit peu de temps. Il y a déjà 40 secondes de passé dans le temps additionnel. Attention, Abdelmonem qui a dévissé. Il y aura une touche, une bonne touche sur la ligne des 22 sur les têtes au rugby pour les Brestois. La touche pour Aïdara avec Jonas Martin. Aïdara à nouveau pour Martin. Aïdara, bien sûr, le petit râteau, bien joué, c'est bien fait avec Jonas Martin qui la demande. Il est pris, il l'a pris Jonas Martin, le centre dégagé par Tanguy Ndombele. Non, et on dégage loin devant, le ballon directement récupéré par Marco Bizot. Hein. De toute façon, les Niçois, là, ils font du pouce-ballon, ils dégagent le plus loin possible et ils vont serrer tout ce qu'ils peuvent jusqu'à la fin de la rencontre. Il reste 2 minutes 30, encore à jouer. Toujours 1-0 pour Nice. Le but de Guessant en première période avec Julien Le Cardinal qui se projette, le défenseur qui va même poursuivre son effort jusqu'à passer en position d'ailier. Le centre de Kenny Lala, du gauche, la tête d'Abdelmonem, c'est récupéré par les Brestois nous avec Julien Le Cardinal qui était resté aux avant-postes. Le nouveau centre de Kenny Lala, la tête cette fois de Jonas Martin. C'est un nouveau refoulé par la défense brestoise et on va chercher à gauche Ibrahim Salah. Le contrôle de Salah, est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il y a faute? Il n'y a rien du tout, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Tanguy Ndombele va récupérer le ballon. Là, c'est là qu'il faut gagner du temps pour les Niçois avec Sofiane Diop. Mais là, c'est immédiatement perdu. Peut-être la mettre dans les pieds plutôt.
Il perd trop vite le ballon, les Niçois. Il va être très mal cette fin de match.
Il reste peut-être encore une petite occasion.
Ouais, il reste moins d'une minute là, dans le temps additionnel.
Un peu plus de 2 minutes.
Une
minute 40 exactement encore à jouer. Avec Francis Leblay qui pousse ses derniers encouragements. Romain Fèvre dans l'axe du terrain. C'est compliqué. Il est face à 3 joueurs. Il va s'en sortir. La remise d'Ajork. Est-ce qu'ils vont récupérer le ballon? Il y a Tanguy Ndombele qui est au sol pour la gagner. Il y a Ibrahim Salah à l'énergie qui va gratter ce ballon. C'est bien joué avec côté droit. Maintenant Ibrahim Salah à nouveau. Peut-être jouer avec Les Melou dans l'axe. On va repasser derrière vers Julien Le Cardinal. On est dans les toutes dernières secondes. On passe à gauche maintenant avec Massadio Aïdara. 1 minute 20 encore à jouer. Le ballon pour Koulibaly. On est à 40 mètres à début de la ligne de but de Marcin Boulka. Koulibaly qui avance, il n'est pas attaqué. Aïdara à l'angle de la surface de réparation. Mais tous les Niçois se sont recroquevillés dans leur surface de réparation. Romain Fèvre pour Jonas Martin. C'est bien joué, mais c'est pas lui forcément qui va déborder. Aïdara, il a manqué le ballon, il va revenir en arrière, la remettre vers Koulibaly. Ils sont patients, peut-être trop patients les Brestois. Maintenant, il faut en mettre une dans la boîte parce que c'est quasiment terminé avec Julien Le Cardinal. La passe entre les lignes, c'était pour Ibrahim Salah ou pour Lala, c'est mal fait.
Il reste 40 secondes.
Il reste 40 secondes et les Niçois qui dégagent loin devant. Avec Dante, il n'y aura pas de dernière action. Adi Roland, on va voir s'il a raison. Il reste une quarantaine de secondes
30
encore.
30 secondes.
30 secondes. Le ballon dans le rond central avec Koulibaly. Il faut qu'il se dépêche, hein, les Brestois. Avec Les Melou pour Julien Le Cardinal. Et effectivement, ça va très certainement en être fini. Et on va peut-être en rester là sur cette rencontre avec la victoire niçoise. 1-0. Romain Fèvre, bien pris par Bombito et c'est là qu'il faut garder le ballon un petit peu avec Dante pour la borne pour Diop. C'est bien fait Diop, voilà, dos au but, la remettre derrière très bien avec Bombito pour côté gauche Antoine Mendy et c'est terminé après la victoire dans le derby face à Monaco 2-1. Nice fait la passe de 2 en s'imposant ici à Brest. Victoire très importante pour se replacer pour l'OGC Nice qui aura largement dominé la première période. Ce sera fait largement dominé en deuxième.
Petit et
ça
but, une victoire. Un petit score 1-0. Et gros 3 points.
Et grande victoire parce que ça leur fait faire un bon au classement quand même de 4 places. Et les voilà maintenant 5e à 2 points seulement, notamment de Lille, le 3e. 1-0 donc pour Nice ici à Brest. Rendez-vous en Coupe d'Europe à Prague et face à Twente pour les deux clubs la semaine prochaine.
Oui, coach, les Niçois qui ont envoyé fort en première période, ils ont géré en deuxième.
On sait très bien que l'ouverture du score dans un match de football, et pas seulement un match de football, mais là on parle de football, c'est quand même quelque chose de très important. Et les Niçois l'ont démontré ce soir parce que la première mi-temps des Niçois est quand même très intéressante.
Les Niçois, 6e match consécutif sans défaite hein, en Ligue 1. On a retrouvé les hommes de Francaise après le retour des blessés. 2e victoire consécutive après le succès face à Monaco la semaine dernière. Evan Guessant encore lui, 6e but permet aux Niçois de remonter à la 5e place juste derrière Marseille. Merci coach d'avoir été avec nous. Et nous, dans quelques instants, on va laisser la place à François Pinet pour l'after live autour de Saint-Etienne, Strasbourg, Valentin Jamin, Edouard G. Rappelez-nous les compos à Geoffroy Guichard.
Avec Atier pour les Verts, Gauthier Larsonneur dans les buts, Ivan Masso, Michael Nadé, Dylan Bem, Toubin Sika et Léo Petro donc pour la défense de droite à gauche. Pierre Ecoua au milieu de terrain avec Bouchouari et Louis Mouton. Devant en pointe, l'attaquant belge Lucas Tassin. À sa gauche, Zuriko Davitashvili et Augustine Boya, qui est son pendant à droite, le Ghanéen.
Vous avez envie de chanter ou pas là?
La 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 la.
Ah, non, il est presque. La compo strasbourgeoise pour arrêter ce calvaire. Petrovic dans la cage. Guéladoué, San et Sar, les défenseurs centraux. À droite dans le couloir, Bakoua à gauche. Moreira, milieu de terrain avec Doucouré. Avec Andrei Santos, le meilleur buteur de cette équipe. Et le capitaine Diarra en soutien d'un duo. C'est Kumara et Sébastien Denazi en attaque.
Football's coming home.
Non, 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 allez.
Attends, et là, on va avoir un gros tifo là pour le dernier match à Geoffroy Guichard avant Lyon ou pas?
Bah, on va voir, on va voir.
Il y a des bâches en tout cas, il y a des bâches.
En tout cas, il y a des bâches. Il y aura 33 000 personnes, une belle ambiance, et avec quelques bandes brouillards qui vont se balader.
Ah, encore,
mais juste pour nous tester un petit peu notre vue.
J'espère que vous serez au niveau visuel au moins dans quelques instants pour le coup d'envoi de Saint-Étienne-Strasbourg. La séance de qualification est repoussée pour l'instant à Interlagos. Peut-être demain matin, Jean-Luc Roy nous donnera des informations, mais ça peut être un tournant dans la saison. L'Afterlife dans quelques instants pour la suite de la Ligue 1 avec François Pinet.
RMC, l'Afterlife.